7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 novembre et la France est en jaune. Le mouvement s'installe. 84% des Français soutiennent cette mobilisation selon un sondage Odoxa pour le Figaro. Et des people s'en mêlent aussi. On en reparle avec Jean-Michel Apathy à 7h40. Comme tous les matins depuis lundi, nous nous rendrons à 7h15 à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Plus de 50 nationalités qui cohabitent dans cette commune depuis 60 ans. C'est une nouvelle ville, un défi pour le vivre ensemble. Où en est-on aujourd'hui ? 7h45, mon invitée sera Marie Pelletier. Elle est historienne, enseignante. Elle publie un ouvrage intitulé « Obsession dans les coulisses du récit complotiste ». C'est un livre sur les fake news et justement ce conflit des gilets jaunes se joue aussi sur les réseaux sociaux avec son lot de rumeurs et de fausses informations. À 8h15, l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara avec ce matin la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Pour elle, la dissolution de l'Assemblée nationale est la seule solution pour sortir de la crise. Bref, de l'info, du social, de la politique internationale aussi. On va passer des colères à la contestation pour vous dire aussi qu'il est temps pour vous de sortir du lit tranquillement parce qu'il est 7h du matin. Bon réveil, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi 29 novembre. Il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal avec vous, Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La voie vers les huitièmes de finale est ouverte pour les footballeurs du PSG. 11 guerriers sur le terrain qui ont battu Liverpool 2-1 hier soir en Ligue des Champions. Les gilets jaunes, toujours sur le pont, tentent de s'organiser, notamment en trouvant des représentants régionaux. Reportage à suivre à Calais. Et puis Jonathan Daval devant le juge d'instruction à Besançon ce matin, suspect numéro 1 dans la mort de sa femme Alexia. Il accuse désormais son beau-frère.
Europe 1.
Et d'abord le football, Kylian Mbappé portant sur son dos un Neymar aux anges qui vient de marquer le deuxième but du PSG. C'est l'une des images qui restera de la rencontre d'hier soir au Parc des Princes. Les Parisiens ont impressionné face à Liverpool en Ligue des Champions. Victoire 2-1 et gros soulagement, Cyril Delamorinerie, car désormais ils sont en bonne voie pour disputer les huitièmes de finale.
On a vu hier soir un Parc des Princes en transe, car les Parisiens ont gagné le match qu'il ne fallait surtout pas perdre. D'où cette effusion de joie. Neymar et Mbappé se sont enlacés à la fin du match. Il y a eu un tour d'honneur. Il faut dire que Paris a marqué les esprits. On a vu 11 guerriers sur le terrain, une défense de fer avec Thiago Silva et Marquinhos, tous deux haranguant le public et un Neymar omniprésent. Paris a réalisé un très grand match, confirme l'attaquant Kylian Mbappé.
On a su répondre, on a su montrer que voilà, on était capable d'élever notre niveau à ce genre de match. Au-delà de faire du jeu, on a montré aussi qu'on pouvait être des hommes. On est très satisfaits et maintenant on va aller terminer le travail à Belgrade.
Et maintenant, Paris qui était au bord du gouffre se retrouve en situation très confortable. C'est en effet à Belgrade, dans moins de 2 semaines, que le PSG jouera sa qualification. Un nul pourrait suffire, mais une victoire est recommandée. Il faudra de toute façon un grand PSG, car cette saison, Belgrade est invaincu dans son stade.
Cyril Delamorinerie rencontre à Belgrade le 11 décembre et puis Monaco, déjà éliminé de la Ligue des Champions, s'est incliné 2-0 sur le terrain de l'Atlético Madrid.
Europe 1, il est 7h02.
L'actualité ce matin, c'est toujours la fronde des Gilets jaunes avec le gouvernement qui veut tenter de leur apporter des réponses concrètes lors d'une grande concertation locale qui va durer 3 mois.
Oui, et pour savoir quelle forme elle va prendre cette concertation, le Premier ministre Édouard Philippe lance ce matin des consultations avec des élus, des représentants du patronat, des syndicats ou encore de la société civile. Il est également prêt à rencontrer des représentants des Gilets jaunes. Mais qui peut parler en leur nom, que ce soit à l'échelon national ou régional? Ils tentent de s'organiser comme à Calais, où Lionel Gougeot les a rencontrés pour Europe 1.
Si la détermination reste forte dans ce rassemblement de Gilets jaunes devant la mairie de Calais, on sent un vrai besoin de mieux coordonner les actions. Et quant à la grande concertation nationale proposée par Emmanuel Macron, Sébastien se demande comment mettre sur pied ces comités représentatifs du mouvement.
Ce qu'on a peur avec une structure, c'est qu'elle soit politisée ou syndicalisée. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. Mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir un porte-parole par région. Alors aujourd'hui, les seules revendications qu'on a, c'est sur les barrages. Et c'est pas comme ça qu'on se fera entendre. Il faut se mettre à la table avec Édouard Philippe. Il y a comme ça qu'on pourra se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un dialogue de sourds. Lui, il nous répond interposé par les médias et nous, on lui répond sur des barricades. Et c'est pas comme ça qu'on va savoir communiquer entre nous.
Et même si pour l'instant l'organisation de cette concertation reste floue, pour Claude il faudra bien concrètement porter les revendications des Gilets jaunes au plus haut niveau.
On veut aujourd'hui que ce mouvement soit représenté au niveau de l'État. Avant de prendre les décisions, la voix du peuple, elle doit être entendue. Qu'on puisse au moins échanger avec les gens du peuple, retranscrire l'information, mais la vraie information, pas celle qui se fait entre les bureaux. On va faire ça pour faire plaisir parce que c'est ce qui se passe actuellement. Les deux choses qui sont mises en place aujourd'hui, c'est juste pour ralentir, hein, pour dire ok, on vous a entendu, mais on n'est plus des gamins quoi concrètement. moment.
En attendant cette concertation, de nouvelles mobilisations sont envisagées pour samedi. Des actions autour du tunnel sous la Manche ou au pied de la Villa Macron, au Touquet. À Calais, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et pour la manifestation parisienne de samedi, la préfecture a pour l'instant reçu deux déclarations. Place de la République et pour un parcours de Madeleine à République. Rien sur les Champs-Élysées qui pourrait être complètement fermé. Les commerçants, eux, sont de plus en plus inquiets. Le 1er décembre ouvre traditionnellement une période de consommation effrénée avant Noël. Et en plus, François Geffrier, il faut rattraper le manque à gagner de ces 15 derniers jours.
C'est surtout massif dans la grande distribution dont les parkings ont souvent servi de point de rassemblement des gilets jaunes. Un tiers du chiffre d'affaires envolé le 17 novembre, premier jour de mobilisation, 18% une semaine plus tard, samedi dernier. Et même dans la semaine, la baisse des ventes était sensible, entre 8 et 15% par jour. Il y a moins de clients dans les rayons et il y a les problèmes d'approvisionnement. Des livraisons plus rares par endroit. Il faut dire que les marchés de gros, eux aussi, sont pénalisés. 30% de baisse du chiffre d'affaires. La restauration est pénalisée également avec des manques à gagner de 20 à 50% sur les deux samedis de mobilisation. Le petit commerce souffre aussi. À certains endroits, des coiffeurs, des bouchers, des boulangers ont subi des baisses de leurs ventes allant jusqu'à moins 70%. Enfin, la plus grosse inquiétude concerne le secteur du jouet et ses petites et moyennes entreprises qui réalisent, dans les 4 semaines avant Noël, 55% de leur chiffre d'affaires annuel.
Les informations de François Geffrier. Et puis l'adhésion est de plus en plus grande autour des gilets jaunes. Selon un sondage Odoxa que publie ce matin le Figaro, 84% des Français trouvent que leur mouvement est justifié. Ils ont également le soutien de plusieurs personnalités, de Brigitte Bardot à Michel Polnareff, en passant par Patrick Sébastien ou Franck Dubosc.
On en parlera tout à l'heure avec Jean-Michel Apathy à 7h40. Direction Marseille maintenant, où le maire Jean-Claude Gaudin s'est livré. Un surprenant mea culpa hier, Hélène.
Oui, 3 semaines après le drame de la rue d'Aubagne et ses 8 morts, il a rendu une visite surprise aux agents du SAMU social, histoire d'expliquer sa réaction tardive. Jean-Claude Gaudin, qui dirige la ville depuis 23 ans, s'est plaint d'être abandonné de tous à Marseille. Stéphane Frangy.
Il se dit seul, abattu et craint de nouveaux effondrements. Jean-Claude Gaudin tente d'expliquer son manque de réactivité juste après le drame. Il confie un moment incapacitant. Lorsqu'une personne reçoit une gifle, il passe quelques secondes avant qu'elle réalise ce qui lui arrive. L'élu l'assure, il est hanté par la mort de ses Marseillais. Oui, j'ai peut-être donné une image un peu distante, mais j'ai cherché à prendre de la hauteur. Le maire de Marseille écarte une fois encore toute idée de démission et confesse « Si j'ai failli, ce n'est pas par un manque de volonté à résoudre le problème, mais dans mon incapacité à convaincre tous les acteurs de la rénovation urbaine. À la tête de la ville, depuis 23 ans, il se dit isolé dans ma propre famille politique. On me tourne le dos pour se faire réélire ou pour ne pas se voir reprocher son amitié. Et en analysant cette fin de règne, un ancien proche de Jean-Claude Gaudin compatit. Ce qui lui arrive est terrible, lui qui voulait être plus fort que de faire. » Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Pour l'instant, 1377 habitants ont été évacués par mesure de précaution. Puis à l'instant, on apprend que des porte-paroles des Gilets jaunes seront reçus à Matignon vendredi, donc demain.
Europe 1.
Dans un instant, Jonathan Daval, à nouveau entendu par un juge d'instruction et avis aux amateurs de grand vin, la cave de Rostropovitch est mise en vente ce soir. A tout de suite.
Il est 7h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec vous, Hélène Zelani et Jonathan Daval, qui a rendez-vous ce matin avec le juge d'instruction à Besançon.
Il est le principal suspect du meurtre de sa femme Alexia. Dans un premier temps, il a reconnu l'avoir tuée par accident, mais a ensuite accusé son beau-frère. Dernier rebondissement, l'ADN de la mère de Jonathan Daval a été identifié sur un cheveu retrouvé dans la voiture qui a servi à transporter le corps. Arthur Elmbaché.
C'est juste malveillant pour déstabiliser mon client à quelques heures de son audition. Par le juge, l'avocat Jonathan Daval est agacé, indigné. Communiquer sur l'ADN de sa mère, dit-il, vise à exercer une pression sur lui. D'autant plus, nous dit maître Randall Schwerdorfer, qu'on sait que Jonathan est très attaché à sa maman, qui est un pilier pour lui dans sa vie en maison d'arrêt. L'avocat est en colère contre le beau-frère de son client, Grégory Gay, qui a décidé de médiatiser cet élément du dossier. À ma connaissance, ce monsieur est parti civil, s'étrangle maître Schwerdorfer, qu'il ne se comporte pas comme un contre-enquêteur. Du côté de la famille d'Alexia, on se dit interpellé par cet élément troublant, sans pour autant en attendre grand-chose. Jonathan Daval, vous, moi, nous dit-on, presque tout le monde, en fait, est susceptible d'avoir un cheveu de sa mère dans sa voiture. L'autre sujet qui sera abordé tout à l'heure dans le bureau du juge et qui est sans doute plus embarrassant pour la défense de Jonathan Daval, c'est ce document retrouvé dans son ordinateur, un texte dans lequel il détaille, apparemment pour bien s'en souvenir, le scénario mensonger du jogging de son épouse, alors que tout indique qu'Alexia est morte au cours de la nuit précédente.
Arthur Elmbaché, rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan en Suisse. disent d'anciennes élèves affirment avoir été victimes d'attouchements lorsqu'elles étaient mineures et qu'il était leur professeur. C'était dans les années 90-2000.
C'est une vente aux enchères, vraiment pas comme les autres, qui se tient ce soir chez Drouot à Paris.
Oui, on vend la cave de Rostropovitch, l'un des plus grands violoncellistes du XXe siècle, amoureux de grands vins, 1200 bouteilles prestigieuses lors d'Autriche.
Ce sont de petits trésors, Pétrus, Château Latour, Cheval Blanc et aussi beaucoup de vins de Bourgogne que Rostropovitch aimait particulièrement. Chaque vin marque les grandes étapes de sa vie, des bouteilles de 1927, son année de naissance, ou encore un Château Lafite de 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. Rostropovitch avait marqué l'histoire en jouant une suite de Bach devant le mur qui venait tout juste de tomber. Ses deux filles, Elena et Olga, moins passionnées par le vin que leur père, ont décidé de vendre les bouteilles de sa cave, dont certaines ont 200 ans, détaille Ambroise de Montigny, expert en vin à l'hôtel Drouot.
On trouve par exemple une bouteille rare et très ancienne, c'est un Lafite Rothschild 1803. La mise à prix est à 5000 euros. On a à peu près 110 bouteilles, je crois, de Lafite Rothschild. Tous les flacons qu'il a sont de très très bonne date, sont juste magnifiques.
Beaucoup de flacons de champagne, dont Pérignon ou Veuve Clicquot, proviennent aussi de cadeaux qu'on a fait à Rostropovitch lorsqu'il venait donner des concerts dans les festivals. Quelques bouteilles offertes après un concert sans doute mémorable pour remercier le maître d'être passé par là.
Voilà le violoncelle de Rostropovitch, première suite de Bach enregistrée dans l'église de Vézelay en Bourgogne. C'était dans les années 90. Ça fait toujours du bien le matin.
Oui, encore un peu de Bach, s'il vous plaît. Montez un peu le son en régime. Ah. Donnez-moi un peu de Hélène Zélani, donnez-moi du Jean-Sébastien Bach et du Rostropovitch. Et ma journée commence avec vous. C'est parti, vous écoutez Europe 1. Merci Hélène pour le journal de 7h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 7h12, on passe à l'édito éco de Nicolas Barré.
Donnez-moi du Nicolas Barré aussi, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et les suites de l'affaire Carlos Ghosn, le ton change entre Renault et Nissan. L'affaire se transforme désormais en bras de fer entre la France et le Japon. C'est tendu.
Pas question de se laisser faire, c'est la ligne dans le camp français et au sommet de l'État après la phase de sidération qui avait suivi l'arrestation de Carlos Ghosn. Eh bien, les Français s'inquiètent des velléités un peu trop voyantes des Japonais d'en profiter. Un dirigeant japonais me le confiait hier sans langue de bois. Saikawa, le patron de Nissan, veut rééquilibrer l'alliance petit à petit. Donc c'est clair, c'est son but de guerre. Aujourd'hui se tient justement une réunion de l'alliance aux Pays-Bas. Les Français, par la voix de Bruno Le Maire, ont prévenu. Le patron de Renault doit présider cette alliance, conformément à ce que prévoient les statuts.
Une déclaration, en tous les cas, qui a été perçue comme agressive au Japon.
Eh bien voilà, la presse japonaise a très vivement réagi. Alors, où va mener ce bras de fer ? Il y a l'option engrenage fatal. Renault augmente sa participation dans Nissan. D'ailleurs, l'État ne l'exclut pas. Mais c'est une arme nucléaire. Nissan peut aussi augmenter sa participation dans Renault, avec pour conséquence potentielle, selon la loi japonaise, de priver Renault de ses droits de vote au-delà d'un certain seuil. Ce serait la guerre totale, la fin de l'alliance. Et puis, il y a l'option raisonnable, celle qui est officiellement, en tout cas, affichée, y compris par les Japonais, et qui consiste à se dire que les intérêts industriels sont plus importants que le reste. Emmanuel Macron aura l'occasion d'évoquer le dossier avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe au G20 en fin de semaine. Il est clair en tout cas que les relations entre les deux constructeurs vont devoir être repensées, mais le fer à chaud dans l'urgence risquerait de conduire à la sortie de route définitive.
Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jours sur Europe 1 à 7h10.
Et il est 7h13, l'heure de retrouver Carole Ferry-Nicos qui se trouve depuis le début de la semaine à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques.
À Mourinx, pour mieux comprendre les raisons du malaise social actuel qui cristallise et qui divise parfois la société. Alors depuis lundi, Carole Ferry, vous rencontrez les Mourinxois et Mourinxoises.
Mourinxois.
Oui, pardonnez-moi, j'ai pas le bon accent. Les Mourinxois. Et Mourinxoise, vous êtes
bravo,
ce matin.
Bravo.
Ouais, je le tente.
Mais écoutez, je suis au centre social, hein, on est en plein préparatif, parce que dès lundi, ici, ce sera la semaine de la laïcité, avec un objectif, mieux vivre ensemble. Et ça fait particulièrement sens, hein, ici à Mourinx, parce que vous avez à peine 7000 habitants, mais 50 nationalités, toutes les religions sont représentées. Et ces habitants, ils sont arrivés il y a 60 ans. À l'époque, il y avait un énorme besoin de main-d'œuvre pour travailler sur le gisement du gaz de lac. À ce moment-là, le mot racisme n'existait pas pour eux. Abdelatif a grandi ici. Écoutez son souvenir du vivre ensemble.
Des souvenirs extraordinaires. Moi, j'ai pas de superlatif. Il n'y avait aucune distinction entre nous. Je vous donne une image très personnelle. Nous vivions dans un appartement au 4e étage, au 3e étage, une famille d'Espagnols, au 2e étage, monsieur et madame Zagouri de confession juive, au 1er étage, madame Anuret, femme au foyer, son époux qui était CRS, et au rez-de-chaussée, une maman rapatriée d'Algérie, et on vivait en harmonie. Il nous manquait quelque chose à la maison, maman descendait. Et on vivait les uns avec les autres. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos enfants un petit peu tout cela.
Ah, intéressant son témoignage, d'autant plus que Mourinx a été créé justement pour accueillir tous les travailleurs qui arrivaient souvent de l'étranger. Mais si on organise aujourd'hui, Carole Ferry, une semaine de la laïcité, ça veut dire qu'on en a besoin à Mourinx ?
Eh bien oui, parce qu'entre-temps, le communautarisme a pris de l'ampleur, hein, le repli sur soi, la peur de l'autre. Alors sauf que depuis les attentats de 2015, les habitants ont décidé de se réunir régulièrement pour voir comment ils pouvaient changer les choses. Ils ont créé un groupe de parole de toutes les origines, toutes les confessions. Parmi les participants, Abdelatif, Suzanne et Bernadette.
Il y a eu justement la porte ouverte à la mosquée. Moi, personnellement, je n'y étais jamais rentrée.
Les gens se sont engouffrés dans cet édifice avec beaucoup d'idées préconçues de ce que pouvait être un lieu de culte qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils ont constaté que c'était quatre murs et voilà.
Quand j'étais dans la mosquée, je me suis dit que finalement, il n'était pas aussi différent qu'on pouvait le penser et que c'était très intéressant de se côtoyer, de vivre ensemble.
J'ai des sourires que je n'avais pas avant. Un maghrébin que j'ai rencontré dans ce groupe, chaque fois qu'il me voit, il a un sourire qui lui fend le visage. Oui, c'est amusant, quoi.
Mais Carole Ferry, comment les habitants de Mourinx arrivent à mettre aujourd'hui des mots sur d'autres mots MAUX ? Comment explique-t-il qu'on soit passé du vivre ensemble qui était naturel, c'était même pas idéologique, au repli de soi ?
Eh bien écoutez, la réponse, elle est très simple. Hein. Tous sont catégoriques. Le problème, ça n'est pas l'origine ou la religion, mais la crise économique, le malaise est arrivé avec le chômage, 22% ici, la précarité. Les gens se souviennent de l'époque où tout allait bien, et bien c'était quand tout le monde avait du travail.
Merci Carole Ferry, vous êtes au centre de Mourinx, au centre social de Mourinx, qui accueillera dès lundi la semaine de la laïcité. Et j'espère que vous allez bien m'accueillir demain avec un petit café, parce qu'on arrive, la matinale sera en direct.
Science.
Ben super, nous aussi on a hâte de venir ce soir, tard. Rendez-vous demain pour une matinale spéciale dès 6h50. Sur Europe 1.
Europe 1.
Et il est 7h17, restez avec nous sur Europe 1, suivre Nikos Aliagas.
Eh bien ma chère Céline, dans un peu moins d'un mois, 60 millions de cadeaux vont être glissés sous les sapins des Français. Un plaisir pour petits et grands et des montagnes de papier cadeaux. On parle de 20 000 tonnes qui pèsent sur l'écologie. Alors des paquets cadeaux pas écolo, c'est notre dossier. Europe 1 va plus loin juste après ça. Bon réveil à tous, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Europe 1. Il est 7h19, les principaux titres de l'actualité à revenir ce matin, Nikos Aliagas.
Des porte-parole des Gilets jaunes annoncent qu'ils seront reçus demain à Matignon. Édouard Philippe lance ce matin 2 jours de consultation pour mettre sur pied la grande concertation de 3 mois annoncée par Emmanuel Macron. Des Gilets jaunes qui ont trouvé un nouveau mode d'action à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Ils lancent samedi l'opération Artisans et commerçants sans TVA. Ils vendront donc des produits hors taxes. Info Europe 1, on y revient à 8h. Jonathan Daval, à nouveau face à la justice, soupçonné du meurtre de sa femme. Il sera interrogé à Besançon en juin. Il était revenu sur ses aveux et il avait accusé son beau-frère.
Europe 1. Nikos Aliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux paquets et emballages de nos cadeaux de Noël.
Alors comme chaque année, il y aura dans un peu moins d'un mois 60 millions de jouets au pied des sapins en France et forcément autant, voire plus de papiers, paquets et autres emballages cadeaux. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions d'environnement pour Europe 1. Et pour faire simple, tous ces emballages cadeaux, c'est du grand gaspillage.
Ah, complètement. Je vous donne un seul chiffre. Rien que le papier cadeau à Noël, c'est 20 000 tonnes en France. Mais le problème des emballages, de jouets notamment, c'est qu'ils ne sont quasiment pas recyclables. D'abord, le polystyrène, il ne se recycle pas du tout. Il y en a pourtant partout, hein, dans les jeux de construction, autour des petites voitures. Ensuite, autour d'un jouet, vous pouvez avoir 3 ou 4 couches de plastique différents. Ça permet des couleurs, vous savez, rose fluo, ah oui, jaune brillant. Hein. Et puis vous avez aussi les emballages qui mêlent plastique et carton.
Ça, je connais, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. La poupée Barbie, je l'ai à la maison.
Oui,
la
c'est
même.
Ça. Sur les Barbie, exactement. L'emballage est en carton, mais vous avez devant un petit film plastique transparent collé qui permet de voir la poupée. Et quand vous avez ce mélange plastique plus carton, ça ne marche pas non plus. Finalement, le recyclage aujourd'hui n'est possible que pour un quart des plastiques.
Ah oui. Est-ce que les marques font des efforts justement pour limiter ce genre d'emballage?
Pas vraiment. Le plastique plastique, ça ne coûte pas cher. L'emballage, c'est la vitrine du cadeau et c'est donc un argument marketing indéniable. Et puis, les fabricants ne sont pas vraiment incités à limiter les emballages. C'est même l'inverse. Lorsqu'ils mettent sur le marché un objet ou un emballage recyclable, ils doivent payer une taxe, précisément pour payer le recyclage. Or, ils ne paient rien lorsque l'objet ou l'emballage ne sont pas recyclables.
Alors, on ne va pas être totalement pessimiste. Il existe des alternatives si on veut être éco-responsable, même à Noël. On va écouter le reportage de Victor Delande. Il nous emmène dans une famille qui, cette année, a décidé d'offrir des cadeaux immatériels. Aucun objet, donc aucun emballage.
Tout a commencé l'année dernière. Virginie offre à sa belle-sœur un zébu pour aider des éleveurs d'un petit village au Niger. Un geste solidaire qui a donné des idées à toute la famille. Cette année, ce sera des cadeaux immatériels pour tout le monde. Ça va des cours de cuisine à un abonnement dans une salle de sport. L'aînée Emmanuelle est d'ailleurs rassurée, elle ne veut plus de la consommation pour la consommation.
Noël, c'est quasiment devenu une corvée, c'est la corvée des grands magasins, c'est la corvée du cadeau qu'on doit faire à dernière minute. Et c'est vrai que c'est plus compliqué, un cadeau immatériel, parce qu'il faut y réfléchir. Donc c'est forcément plus d'implication.
Emmanuelle n'a même pas eu besoin de convaincre ses deux filles. Armande, 12 ans, a déjà une conscience écologique très développée pour son âge.
Ce qu'on est en train de faire, d'acheter, et puis de jeter, et pas forcément toujours de recycler, ça va détruire la planète dans le futur est donc mon futur en quelque sorte.
Armande a d'ailleurs une idée très précise de ce qui lui ferait le plus plaisir, des places de théâtre. Son oncle Jérémy, lui, n'était pas franchement emballé par l'idée au début, mais en faisant récemment le tri dans les jouets de ses enfants, il a changé d'avis.
Plutôt qu'un suite trop grand qu'il va falloir changer et qui devient une vraie galère, si on m'offrait un abonnement qui permet pendant un an de mater du foot, ça peut être le genre de cadeau assez cool.
Il a d'ailleurs un message à faire passer à sa sœur, qu'elle offre un peu de son temps libre pour apprendre à ses parents à maîtriser les réseaux sociaux.
Alors Laure, sans aller jusqu'à offrir exclusivement des cadeaux immatériels, est-ce qu'il y a quand même des petites astuces pour limiter les emballages systématiques?
Oui, il y en a beaucoup. Un exemple, utiliser du papier cadeau qui ne contient pas de plastique. Hein. Oui, il y a du plastique dans certains papiers cadeaux et par exemple, l'aspect brillant d'un papier doit vous alerter. Et puis, vous pouvez aussi vous inspirer des Japonais, par exemple, qui ont une méthode d'emballage en tissu. Ça s'appelle le furoshiki et ce tissu est réutilisable à l'infini.
Furoshiki, fêtez Noël sans détruire la planète avec une surabondance d'emballages cadeaux. Merci pour ces bonnes idées, Laure d'Autriche. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone au 3921 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Il est 7h23, Nicolas.
Et Anissé Mbida arrive dans quelques instants avec son innovation. On va parler nouveaux moyens de transport pour mieux nous déplacer en ville avec un aérotrain qui fonctionne à l'envers. Encore une idée de dingue.
Ah oui, c'est fou.
Restez connectés, à tout de suite.
Il est 7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anis Mbida, Nico Saliagas.
On va parler de l'un des objectifs de cette fameuse loi mobilité présentée en début de semaine, c'est-à-dire mettre en avant de nouveaux modes de transport en commun, comme cette invention qui mélange le téléphérique et l'aérotrain. Anis, expliquez-moi tout.
Alors, imaginez, vous êtes coincé dans les bouchons le matin pour aller travailler.
Ouais.
Vous levez la tête et vous voyez des cabines avec 7-8 personnes à l'intérieur qui circulent à toute vitesse à une dizaine de mètres de haut. Alors, ça ressemble un peu à de la science-fiction.
Le cinquième élément.
Ça va bientôt arriver un peu partout dans le pays. Ça s'appelle les supraways et c'est une technologie française. Et vous l'avez dit, hein, c'est comme un aérotrain, mais à l'envers puisque la cabine n'est pas au-dessus, mais en dessous du rail.
Ça va à quelle vitesse, juste qu'on ait une idée?
Ça fait des pointes à 130 km/h, mais en moyenne, ça roulera entre 80 et 100 km/h entre les villes. Il y a déjà une douzaine de villes comme ça qui sont intéressées. Les plus avancées étant Saint-Quentin-en-Yvelines et Thionville dans la Moselle. Et à chaque fois, c'est le même objectif, désengorger la nationale et certaines portions de l'autoroute qui sont bondées pendant les heures de pointe. Et le gros avantage de cet aérotrain à l'envers, c'est qu'il a besoin de très peu de surface au sol. En Moselle, par exemple, on imagine l'installer sur le terre-plein central de l'autoroute.
D'accord.
En plus, il revient 2 à 3 fois moins cher qu'un tramway, 15 fois moins cher qu'un métro, puisqu'il n'y a rien à creuser. Hein. Et du coup, les premières installations devraient arriver d'ici 2 ans à peine. Et moi, je pense qu'avec les bouchons, la pollution, la transition énergétique, on va avoir de plus en plus d'innovations dans les transports en commun. Aujourd'hui, on commence à installer des téléphériques urbains, on ressuscite des dirigeables, l'aérotrain. Eh bien, ce n'est plus la voiture individuelle qui consente l'innovation. Désormais, ce sont les transports.
Et on verra ce qui résistera. Il y a plein de nouvelles choses, mais souvent, c'est moche, non?
Ça dépend.
Un aérotrain à l'envers
Non, c'est quand même super moderne. On a ça dans tous les parcs d'attractions, on trouve ça super fabuleux.
Mais la modernité, parfois, périt plus vite que le classicisme.
Ouais, la modernité, c'est le classicisme du futur.
Monsieur a la langue bien perchée ce matin. Anis Mbida, l'innovation qui nous transporte vers le futur, il le fait avec talent, c'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur même des territoires pour faire progresser la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kahneman, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol-Nikos.
La modernité est ignorée par le ciel.
Ça, c'est une phrase.
Alors, réfléchissons.
Faut que je réfléchisse.
Vous avez 4 heures.
Merci,
non,
Laurent.
L'innovation. On pourrait dire que l'innovation, dans le ciel, il n'y a pas trop d'innovation. Est-ce que
ah,
je pourrais
ben voilà,
parce que aujourd'hui, nous avons pratiquement le même temps qu'hier. Une sorte d'innovation apparaîtra en fin de semaine et encore que, puisqu'on peut dire que durant les jours qui viennent, toujours, les deux tiers nord seront sous un ciel souvent couvert, souvent pluvieux, au détriment du tiers sud, où nous aurons quelques averses, mais sûrement et beaucoup plus de soleil. Alors en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, sur les côtes de la Manche, sur la vallée de la Loire, sur la région parisienne, ce sont des pluies, surtout ce matin, après ça ira un petit peu mieux. Les pluies vont gagner le Poitou-Charentes, le Limousin, le Centre, la Champagne, l'Aquitaine, le Morvan, elles seront là aussi dans l'après-midi. Bref, toutes ces régions auront un passage pluvieux, alors que sur le Béarn, l'Auvergne, la Lorraine et l'Alsace, ce sera un temps, et région Rhône-Alpes, ce sera un temps plutôt voilé, mais sans intempéries. Les marins, le vent marin s'est levé ce matin, et donc nous avons maintenant des petites pluies qui apparaissent sur Languedoc-Roussillon. Les températures cet après-midi vont s'échelonner entre 11 et 17 degrés, température douce, ma foi, et assez agréable, 12 degrés, 17 degrés à Toulouse et 12-13 degrés du côté de Paris.
Voilà. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure. Et nous parlerons avec Jean-Michel Apathy des Gilets jaunes, des People, de certaines stars qui s'y mettent aussi à soutenir, à être pour, à être contre. Tiens, justement, à propos des réseaux sociaux, à propos de cette expression parfois manichéiste lorsqu'il s'agit de commenter l'actualité, à 7h45, je reçois Marie Pelletier. Elle est historienne, elle est enseignante et elle vient de publier un ouvrage passionnant intitulé « Obsession dans les coulisses du récit complotiste ». Bon réveil à tous sur Europe 1.
Oui, et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre toute nouvelle application Europe 1 ou la mettre à jour pour avoir accès à toute l'actualité, nous écouter bien évidemment et nous envoyer vos messages de façon plus simplifiée. Allez télécharger cette application et bienvenue à tous. Nous sommes
elle
le jeudi.
Elle est superbe cette application.
C'est vrai qu'elle est très belle. 29 novembre et il est 7h30.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal de 7h30 avec Céline Kahneman. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un document Europe 1 ce matin alors que Carlos Ghosn est toujours derrière les barreaux au Japon, que les dirigeants de Renault, Nissan, Mitsubishi se réunissent à Amsterdam. Europe 1 dévoile un extrait d'une conférence donnée par Carlos Ghosn devant des étudiants d'une école de commerce à Paris. C'était il y a un an. Le patron de Renault répondait alors à cette question. Doit-on interdire l'optimisation fiscale? C'est exactement ce qu'il lui reprochait au Japon. Écoutez sa réponse.
C'est une question intéressante parce qu'un PDG engage sa responsabilité devant ses actionnaires dans les règles. Dans les règles. Donc faire de l'optimisation fiscale en enfreignant la loi ou les règles ou alors en dissimulant quelque chose, bien entendu, ça ne doit pas arriver. Pour moi, le respect des règles est indispensable à la pérennité de l'entreprise. Parce que le jour où vous vous faites prendre en faisant quelque chose de mal, c'est un choc gigantesque pour l'entreprise. De toute évidence, quand vous le faites, vous le dites à votre conseil d'administration. Ce n'est pas une décision que va prendre le PDG seul en se disant « Je vais créer une filiale dans un paradis fiscal quelque part ». Vous le dites à plusieurs personnes.
Carlos Ghosn avec Alexandre Lepoutre pour Europe 1. Nouvelle charge contre Tariq Ramadan. À Genève, un rapport officiel que s'est procuré Europe 1 confirme sa conduite inappropriée avec d'anciennes élèves qu'il accuse d'attouchement. Il était leur professeur. Elles étaient mineures. Gérard Depardieu entendu avant-hier en audition libre par la police dans le cadre d'une enquête où il est visé pour viol et agression sexuelle.
Mettre une fessée et une claque à son enfant lorsqu'on est excédé, dépassé, fatigué, ce geste va-t-il bientôt être puni par la loi ?
L'Assemblée examine aujourd'hui une proposition visant à interdire les châtiments corporels et psychologiques. Des études ont clairement démontré que les violences ne menaient à rien. Maud Petit, députée Modem, est à l'origine de ce texte. Elle estime que rien ne justifie de frapper un enfant.
Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'admettre qu'il ne doit plus y avoir une catégorie de la population qui n'a pas les mêmes droits que les autres. En plus, cette catégorie de la population, ce sont les plus fragiles d'entre nous, ce sont nos enfants. Aujourd'hui, il est temps d'acter que les enfants ont les mêmes droits que les adultes. On ne frappe pas un adulte, on ne frappe pas un enfant. Quand on est fâché, quand on est furieux contre un patron, contre un collègue, contre un voisin, bah, il est entendu qu'on ne va pas le frapper, lui donner une claque parce qu'on n'est pas content. Pourquoi est-ce que l'enfant, lui, aurait droit à une correction parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne sait pas se maîtriser ?
Mot de Petit au micro de Virginie Salmen pour Europe 1.
Des dissensions au sein même de la majorité concernant les gilets jaunes,
Le
Céline.
Député de La République En Marche, Patrick Vignal, plaide pour une pause avant la hausse des taxes sur les carburants prévue au 1er janvier. C'est l'une des principales revendications des gilets jaunes. Jusqu'à demain, Édouard Philippe va mener des consultations pour tenter de trouver des réponses au mouvement. Des gilets jaunes affirment ce matin qu'ils seront reçus demain à Matignon. Des gilets jaunes toujours autant mobilisés à travers le pays qui ont appelé à manifester samedi partout en France, ce qui inquiète évidemment les commerçants déjà fortement impactés. Jean-Michel Grimbert est le président de la Grande Récré. Le secteur retient son souffle.
Oui, très grosse difficulté, puisque au global, on a fait des baisses de plus de 50%, mais avec des disparités fortes, puisque certains magasins ont été fermés. Vous avez des régions comme le sud-ouest de la France qui ont été particulièrement touchées. Et puis bien sûr, samedi dernier, c'est pareil. Hein, quand on est à proximité des Champs-Élysées, les magasins sont fermés. Il y a le double impact. Il y a effectivement des ronds-points qui sont bloqués. Et puis bien sûr, il y a aussi tous les gens qui sont impressionnés ou qui ne veulent pas risquer de se faire bloquer. Ce qu'on fait, c'est qu'on adapte les emplois du temps. On fait d'autres travaux aussi pour approvisionner les magasins. Mais il n'empêche quand même qu'il faut du chiffre d'affaires pour payer les gens. Mais voilà, comme on travaille pour le Père Noël, on pense que les choses se régleront. Nous serons prêts et je suis confiant sur le mois de décembre. Parce que c'est un mois qui pèse pour nous plus de 30% du chiffre d'affaires.
Jean-Michel Grimbert avec Emmanuel Dutheil. Et puis cette nouvelle hausse annoncée ne risque pas d'apaiser les tensions. Selon nos confrères de l'Opinion, le tarif de l'électricité pourrait augmenter de 3 à 4% au mois de février. La Commission de régulation de l'énergie doit prochainement transmettre au gouvernement sa proposition sur l'évolution des tarifs. La Cour de cassation a rendu hier une décision qui va changer la donne pour les livreurs à vélo. Elle a considéré qu'un livreur de repas qui travaillait à partir d'une plateforme n'était pas un auto-entrepreneur, mais bien un salarié. Écoutez Jérôme Pimou, les porte-parole des livreurs à vélo qui réclament depuis plusieurs années la requalification de leur contrat.
Comme beaucoup de plateformes disent à tout le monde qu'on travaille quand on veut, c'est un abus de langage, hein, parce que sur des plateformes, on est obligé de s'inscrire sur des créneaux horaires. Donc on est suivi seconde par seconde par le GPS, c'est ce faisceau d'indices. La Cour de cassation l'a repris et elle a statué que oui, en effet, il y avait des indices de subordination, donc on était des salariés. Maintenant, tout le travail va être d'attaquer les plateformes pour récupérer et pour les travailleurs les sommes dues, c'est-à-dire les cotisations sociales, les droits en fait aux prestations sociales que les plateformes leur ont volées depuis des années, et puis aussi pour l'État d'aller récupérer l'argent des cotisations patronales qui là, pour le coup, n'ont jamais été payées par les plateformes sous prétexte qu'elles employaient des indépendants. C'est des millions.
Jérôme Pimot, joint par Olivier Samin pour Europe 1.
Et puis le rapport alarmant publié ce matin dans la revue médicale The Lancet.
Les problèmes de santé liés au réchauffement climatique à travers le monde se multiplient. Coups de chaud, maladies cardio-vasculaires ou rénales. Les plus de 65 ans et les habitants des villes sont particulièrement concernés. Le changement climatique a également de grosses conséquences sur le vin. Les vendanges sont de plus en plus précoces. La quasi-totalité des vignerons indépendants ont changé de méthode de travail pour atténuer justement les impacts du réchauffement de la planète. Écoutez Laurent Rousseau. Il est à la tête de 60 hectares dans le Bordelais.
On fait très attention au niveau des sols. Vous pouvez le voir, là, on laisse beaucoup d'herbes l'hiver, on ne désherbe pas du tout, pour garder un maximum d'eau, pour garder la fraîcheur. On gère les travaux en fonction de la climatologie. Il y a 10 ans, on effeuillait des deux côtés sur fleurs, c'est-à-dire qu'on sortait les feuilles qui étaient devant le raisin. On a totalement arrêté depuis maintenant 3 ans, parce que le climat a complètement changé. On a beaucoup plus de vent, on a du vent chaud, donc des vignes qui ont tendance à souffrir beaucoup plus parce qu'on a moins d'eau. Les vieux avaient des schémas qu'ils appliquaient tous les ans. Ils savaient qu'à telle période, il fallait faire tel travail. Nous, aujourd'hui, on est totalement dans l'incapacité de faire ça parce que, alors c'est un peu exagéré, mais on est quasiment en mousson. On a 6 mois de pluie, 6 mois de sec. On est fin novembre, on a eu 70 mm, donc quasiment rien. On va arriver en décembre, potentiellement, il ne va pas pleuvoir plus. On a fini l'année et on n'aura pas eu assez d'eau sur cette année. Trop en début de saison, pas assez maintenant.
Laurent Rousseau, micro européen de Stéphane Place. 2-1 pour le PSG face à Liverpool hier soir en Ligue des Champions. Jean-Michel Apathy est content. Une victoire à Belgrade le 11 décembre permettra aux Parisiens de se qualifier pour les huitièmes de finale.
Céline Kallmann au micro d'Europe 1 pour le journal de 7h30. Merci Céline.
Europe 1.
Et il est 7h36.
Jean-Michel Apathy.
Oui, Nicolas.
Au-delà du foot, 84% des Français approuvent le mouvement des Gilets jaunes selon un dernier sondage au Doxa publié hier. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que plus le président parle et plus les gens soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Bravo, monsieur Macron.
Ici, il n'y a jamais de silence radio. Jean-Michel Apathy sur Europe 1, juste après ça.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Qui pourra calmer la colère des Gilets jaunes, ouvrir le dialogue deux jours après l'intervention du chef de l'État, Jean-Michel Apathy? C'est plutôt un échec.
Oui, c'est un échec. C'est un retour de boomerang en fait que subit Emmanuel Macron ce matin. Plusieurs études d'opinion, des sondages montrent que l'opinion publique soutient davantage qu'elle ne le faisait la semaine dernière. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un sondage au Doxa que publie le Figaro ce matin. 80% des sondés soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, 7% de plus que la semaine dernière donc. Et 78% d'entre eux, c'est quand même énorme, hein, n'ont pas été convaincus par l'intervention d'Emmanuel Macron mardi. Et à ceci, qui est déjà important quand on gouverne, on regarde ces études-là, à ceci s'ajoute la mobilisation inattendue de personnalités du monde du spectacle. Par exemple, un urgent hier soir, venant du journal Le Parisien, le chanteur Michel Polnareff soutient les Gilets jaunes. Alors, c'est un peu spectaculaire, un peu ridicule aussi, dans son interview à Las Vegas. Bon, et puis il y a aussi cette vidéo qui circule beaucoup de Franck Dubosc. Je suis un privilégié, dit-il, l'acteur Franck Dubosc, populaire évidemment. Je suis un privilégié et je soutiens les Gilets jaunes. On écoute Franck Dubosc.
Je sais d'où je viens. Moi, je suis un privilégié. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'y réfléchis, on y réfléchit, mais on va trouver quelque chose.
Évidemment, ça a de l'impact. C'est tout à fait inhabituel. Patrick Sébastien aussi a pris la parole pour soutenir les Gilets jaunes.
C'est une bonne chose qu'une personnalité publique qui ne fait pas de politique.
C'est ça. D'habitude, politique. Ces gens-là n'interviennent pas dans le débat politique. Donc, c'est tout de même très fort. Ce matin, si on devait prendre une image, on a l'impression que le mouvement des Gilets jaunes ressemble à cet incendie de Californie. Il y a 3 semaines de ça, que personne ne pouvait arrêter, personne ne pouvait maîtriser.
Et que personne n'avait vu venir.
Oui, et qui ravageait. Personne n'avait vu venir non plus et qui ravageait tout sur son passage. Alors, dans ce contexte, la journée de samedi va être une journée à nouveau très importante. Est-ce qu'il y aura beaucoup de manifestants? Est-ce qu'il y aura des manifestants sur les Champs-Élysées? On n'en est pas sûr. Est-ce qu'il y aura de la violence? Évidemment, tout ça, ce sont des questions. Pendant ce temps, le Premier ministre, il intervient sec comme un coup de trique. Hier matin, le Premier ministre, oui, les taxes vont augmenter sur les carburants, a-t-il dit. Non, il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC. Spécialiste de la douche froide, Édouard Philippe, du Juppé XXL, disait un ministre hier soir. Il paraît qu'Emmanuel Macron n'a pas tout à fait aimé la nature et la tonalité de l'intervention du Premier ministre, mais voilà, c'est comme ça. En attendant, eh bien Marine Le Pen, qui sera tout à l'heure avec Audrey Crespo-Mara, Jean-Luc Mélenchon, regarde la situation ébahie. Jusqu'où ira l'incendie? Eh ben, ce matin, personne n'en sait.
Vous avez oublié un people?
J'ai oublié peut-être plusieurs people, j'en suis
Brigitte
désolé.
Brigitte Bardot.
Oui, je l'ai cité.
Vous l'avez dit, pardonnez-moi.
Je l'ai cité, Brigitte Bardot,
matin,
effectivement.
Matin, voilà des choses qui passent et que je n'entends pas.
Mais voilà, et Brigitte Bardot fait partie des personnalités qui soutiennent les Gilets jaunes.
Et on n'a pas entendu encore de personnalités qui ne les soutiennent pas.
Exact.
À suivre, vous prenez la parole aussi, chers auditeurs, juste après Jean-Michel Apathy, vers 7h40. C'est vous qui le dites, vous réagissez à l'actualité sur le répondeur d'Europe 1 au 3921. On vous écoute ce matin.
Salut Nikos, c'est Ludo, de Montbleu, dans le 59. Quand tous les Français ou résidents français rouleront en voiture bio avec des fleurs sous le capot, je me demande vraiment comment Macron va faire en sorte que Trump revienne dans l'accord de Paris, que le Brésil ne vende pas la forêt amazonienne, le poumon de la terre, aux industriels. Et comment va-t-il faire, en gros, pour que les autres suivent le mouvement? Parce que ça va être bien beau de rouler bio et écologique si on respire toute la misère du monde. Donc voilà, c'était ma question. Je vous remercie. Bonne journée.
Merci Ludo. Jean-Michel Apathy.
On n'a pas la réponse, mais on notera que Ludo a un peu d'humour. Ça fait du bien le matin.
Ça fait du bien, un peu d'humour, surtout en ce moment. Dans un instant, on va parler fake news avec mon invitée, Marie Pelletier. Elle publie un ouvrage intitulé « Obsession dans les coulisses du récit complotiste » aux éditions Incultes. Rumeurs, photos, vidéomontages, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas épargné par cette guerre de la désinformation. On en parle juste après ça, tout de suite.
Et si vous aussi, vous voulez laisser votre message à Nikos, vous pouvez le faire au 3921, le répondeur de l'actu ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Une délégation de Gilets jaunes va être reçue demain à Matignon par Édouard Philippe qui lance ce matin 2 jours de consultation. Objectif, organiser la grande concertation de 3 mois annoncée par Emmanuel Macron. Un nouveau mystère dans l'affaire Daval, alors que Jonathan va être à nouveau entendu ce matin à Besançon. 3 substances médicamenteuses ont été retrouvées dans le corps de sa femme Alexia. L'une d'elles, le tramadol, ne lui avait jamais été prescrite selon ses proches. Victoire 2-1 hier soir de Paris en Ligue des Champions face à Liverpool au Parc des Princes. Une victoire dans 2 semaines à Belgrade leur permettra peut-être de se qualifier pour les 8e de finale. Enfin, la tendance météo, une zone de pluie traverse le pays avec des vents très violents, jusqu'à 100 km/h par endroit. Attention à vous, pluie cévenole en Méditerranée, température en hausse de 9 à 18 degrés.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h.
Europe 1.
Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'historienne et enseignante Marie Pelletier qui publie un livre aux éditions Inculte, Obsession dans les coulisses du récit complotiste.
Bonjour Marie Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes où exactement ? Parce qu'on n'est pas dans le studio ensemble, vous êtes en ligne.
Je suis à Bruxelles.
Vous êtes à Bruxelles, vous enseignez là-bas ?
J'enseigne à Bruxelles, oui, depuis 15 ans.
Alors, dans votre ouvrage, page 26, vous écrivez, je vous cite, « Les réseaux sociaux sont à la fois le lieu de l'appartenance, le terrain de l'affrontement. Ils sont aussi devenus le moyen privilégié pour jeter le discrédit sur l'autre. » Et on le voit bien, j'espère que vous êtes toujours en ligne avec nous, avec ce conflit des Gilets jaunes, il se passe aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu la question ou
J'ai entendu la question. Il y a juste des petites interférences.
J'entends. C'est de la désinformation, c'est du récit complotiste, certainement.
Exactement. Donc, vous parliez des réseaux sociaux et des gilets jaunes.
On a l'impression qu'on cherche un responsable et un bouc émissaire au-delà des politiques. Que le débat est beaucoup plus manichéen. Hein. Qu'à chaque fois, c'est « Et toi, tu fais quoi pour les gilets jaunes ?» Ou « Tiens, un tel est une... » On balance beaucoup plus, mais... On n'a plus de dialectique ou de dialogue constructif. Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que scientifique ?
Oui, le débat public est devenu extrêmement hostile et extrêmement binaire, extrêmement polarisé, en effet. On a l'impression qu'il y a, sur les réseaux sociaux, sur Twitter particulièrement, une espèce de mise en scène continuelle avec des camps préfabriqués, on pourrait dire, qui s'attachent généralement à attaquer le camp d'en face, ce qu'ils considèrent comme le camp d'en face. Et effectivement, ça se base beaucoup sur une logique de discrédit, c'est-à-dire sur une logique d'ultra-personnalisation. Plutôt que d'attaquer, enfin de s'en prendre aux idées et de porter le débat d'idées, on préfère souvent essayer
on zoome.
De
On fait un zoom et on attaque une personne, en fait.
Exactement, on est dans le focus individuel, tout à fait.
Et là arrive aussi la désinformation, parce que le réseau social en soi, lors d'une manif, nous permet de voir les choses directement et de passer peut-être outre des médias, on va parler des médias dans un instant, mais il y a aussi de la désinformation. Par exemple, cette photo publiée il y a une semaine, on y voit une autoroute envahie par des centaines de gilets jaunes, mais en creusant, en fait, on s'est aperçu que la photo datait de 2014 et que la mobilisation n'avait absolument rien à voir. Sauf que on peut le démentir, mais le mal peut être fait.
Tout à fait. Et c'est évidemment un phénomène qui s'est produit bien en amont de ce mouvement. Ça fait des années qu'on assiste à ce genre de pratiques, c'est-à-dire des photos antidatées, des photos falsifiées. Et d'ailleurs, ce sont des pratiques que tous les camps utilisent actuellement. Le problème étant que malgré le fait qu'il y a pas mal d'initiatives pour le moment dans la presse de ce qu'on appelle le fact-checking, donc qui vise à démonter ces erreurs et ces faux montages, etc., c'est qu'effectivement, quand une mauvaise information ou une mauvaise photo a été répandue et que des gens y ont cru, c'est très difficile après de les faire revenir en arrière sur leur crédulité, en quelque sorte.
On joue sur les impressions, en fait.
Sur les impressions, sur les émotions et sur aussi ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on aime bien être confirmés dans ce qu'on pense et dans ce qu'on croit. Et donc forcément, si on voit une information, une photographie qui a l'air d'illustrer ce qu'on pense déjà, on va avoir tendance à y adhérer. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on doit tous s'interroger. C'est un problème qui nous concerne tous. Personne ne peut considérer qu'il n'est pas touché par ce genre de problème.
D'une façon ou d'une autre, cela pointe aussi la crédibilité du système démocratique. Est-ce qu'on a les réponses ? Est-ce qu'on a les moyens de répondre justement à un débat manichéen, à un débat tronqué aujourd'hui ? Vous pointez du doigt dans cet ouvrage justement le danger peut-être de notre système démocratique ?
Pas le danger du système démocratique,
enfin,
mais...
Oui, pas le rejet et peut-être les dangers que le système démocratique est en train de traverser et auxquels il doit faire face.
Oui, effectivement, on est dans un climat de défiance à l'égard de la démocratie qui est devenu vraiment... qui a atteint un degré de paroxysme parce qu'il y a tout un discours anti-système, anti-média qui a gagné énormément de terrain depuis une quinzaine d'années. C'est une séquence qui a été progressive avec une banalisation des idées d'extrême droite notamment. Je tiens à le dire parce que voilà, j'ai notamment appris hier soir qu'après moi, Europe 1 recevait Marine Le Pen et en fait j'étais extrêmement mal à l'aise par rapport à ça parce que pour moi
c'est
une illustration.
Vous avez voulu annuler
aussi.
En fait, c'est ça, vous avez appelé pour annuler. Mais pourquoi ?
Tout à fait. Parce que pour moi, la démocratie, c'est aussi pouvoir mettre des lignes rouges, c'est aussi pouvoir dire non aux acteurs hostiles à la démocratie. Ici, moi, je parle de complotisme et de fake news. Le Front National est un des partis en France qui diffuse le plus ce type de propos, ce type de rhétorique. Et donc, il y a un climat assez relativiste actuellement, où on a l'impression qu'on met un peu sur un même pied d'égalité tous les types de discours, et ça engendre aussi de la confusion. Je sais qu'hier aussi, sur votre antenne, quelqu'un est venu défendre le régime Assad, par exemple, et dire qu'il fallait soutenir l'armée syrienne, qui est responsable de la mort de centaines de milliers de civils. Et c'est très compliqué, parce que parler au milieu de tout ça, c'est quelque part parler au milieu d'une banalisation des discours de haine. Et c'est en cela que le type de travail que je mène est devenu extrêmement ardu actuellement.
J'entends le regard et la distance de la scientifique et aussi la subjectivité de la scientifique, mais nous, à contrario, nous devons donner la parole à tout le monde et à une élue de la République, à des millions de gens qui ont voté pour elle d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si on arrive à diaboliser telle ou telle personnalité parce qu'on considère qu'elle n'est pas politiquement correcte et qu'elle ne représente pas les valeurs que peut-être nous voudrions à titre privé le faire, nous ne serions plus dans notre rôle aussi, Marie Pelletier. Et c'est là où le bât blesse, et c'est là où ça devient paradoxal, et c'est là aussi où les médias se retrouvent des cibles. Regardez la une du journal La Croix. Je ne suis pas certain que vous l'ayez vu déjà à Bruxelles ce matin, mais regardez, quand les médias deviennent une cible. Il y a quelques jours, des journalistes ont été pris à partie, je crois à Toulouse, qui ont été chassés comme du gibier dans la rue, et certains élus ou certains responsables politiques riaient de ce fait. Est-ce que là, nous ne sommes pas aussi dans le paradoxe de la boîte de Pandore où on cherche à tout prix un bouc émissaire et le journaliste pourrait être ce bouc émissaire ?
Bien sûr que le journaliste est devenu un bouc émissaire, et c'est notamment précisément le résultat de la banalisation des idées d'extrême droite depuis une quinzaine d'années. Parce qu'il ne faut pas penser que cette rhétorique, elle vient de nulle part. Cette rhétorique, elle est ancienne, elle est liée à un mode de pensée, à un imaginaire ancien, qui est le mode de pensée anti-système et complotiste. C'est pour ça que je pense qu'on doit vraiment, c'est une interrogation que j'adresse à tous les journalistes et tous les médias, que à la fois, je pense que les journalistes aujourd'hui ont vraiment le droit d'être défendus, que leur profession doit être plus que jamais protégée. Et en même temps, je pense qu'on doit aussi oser dire aux journalistes qu'ils ont parfois à interroger certaines de leurs pratiques. Moi, je vous entends tout à fait quand vous dites on doit donner la parole à tout le monde, etc. C'est la pluralité des points de vue, et je comprends ce point de vue. Mais Il y a aussi des positionnements parfois d'une nature éthique à poser. Vous disiez tout à l'heure que je parlais en tant que scientifique. Moi, je ne parle pas seulement en tant que scientifique.
En tant que citoyenne aussi.
En tant que citoyenne aussi. Et je l'assume totalement. J'ai un point de vue, j'ai une vision du monde que je défends.
Respectable.
Et je pense, oui, mais je pense qu'on l'a tous. Je pense que vous aussi, vous avez une vision du monde que vous défendez.
Votre démarche est respectable. Ma vision du monde aussi, elle passe par l'éthique de mon métier, c'est-à-dire la polyphonie, justement pour mettre de côté le malentendu, le raccourci et le récit complotiste. Ça n'est jamais facile au quotidien, mais si on n'essaye pas, on reste dans notre coin avec nos croyances, chère Marie Pelletier, et on ne fait pas avancer le processus et la dialectique et le débat. Votre ouvrage est passionnant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça s'appelle Obsession dans les coulisses du récit complotiste. Alors, c'est peut-être, au premier abord, un peu un télo, mais au final, ça nous fait réfléchir. Et au lieu seulement d'agir dans le vide, peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir un peu plus.
Europe 1.
Il est 7h54, à suivre, Nikos.
Un homme qui réfléchit, Axel de Tarlé, le Zoom Echo, on va parler, tiens, des impôts et des taxes en Europe. Et puis, il y aura aussi, tout à l'heure, direction Saint-Brieuc, dans le journal de 8h, un zoom, un gros plan, un reportage sur les gilets jaunes de Saint-Brieuc.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 7h57, l'heure du Zoom Echo. Nikos Aliagas avec Axel de Tarlé.
Champion d'Europe, la France est championne d'Europe des impôts et des taxes. J'aime bien la chute.
Oui, en plein mouvement des gilets jaunes, Eurostat, figurez-vous, vient de publier le hit parade des pays qui taxent le plus en Europe. Eh bien oui, sur les 28 pays de l'Union européenne, nous sommes numéro 1. Les prélèvements obligatoires atteignent en France 48,4%. Personne ne fait mieux, ça veut dire que sur 100 euros de richesse créée, l'État en prend 48. Alors comme pour le mondial de football, figurez-vous que pour accéder à ce trophée de champion, nous avons dû battre la Belgique, solide concurrent mais qui reste à la deuxième place avec un taux de prélèvements obligatoires de 47%. Et puis pas de souci, la Belgique n'est pas prête de nous rattraper car la France a encore amélioré son score l'an dernier, plus 0,7. Nous sommes passés de 47,7 à 48,4% donc de prélèvements. Donc on est numéro 1, loin devant le plus. Le ton, hein, la moyenne européenne est à 40%. Alors on y trouve l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie un peu au-dessus, 42%. Et le pays enfin qui taxe le moins en Europe, donc le paradis pour les gilets jaunes, c'est l'Irlande, 23% de prélèvements obligatoires, deux fois moins qu'en France.
Alors comment s'explique cette triste place de champion et comment font les autres pour payer moins d'impôts?
Ah ben là voilà, alors c'est là que c'est intéressant de regarder par rapport à nos voisins où nous taxons le plus. Eh bien figurez-vous qu'en matière de TVA, d'impôts sur le revenu ou sur le capital, la France est dans la moyenne européenne. En revanche, là où nous sommes nettement au-dessus de nos voisins, c'est tout ce qui est cotisations sociales. Or, à quoi servent ces cotisations? Eh bien, à payer les retraites, la santé, le chômage et les allocations familiales. Or, avouons-le, en matière de retraite, de santé, de chômage et d'allocations familiales, le système français est plus généreux qu'ailleurs et nous sommes attachés à cette générosité. Elle est là la grande difficulté et même, on peut le dire, la contradiction parfois de ce mouvement très populaire des Gilets jaunes.
Axel de Tarlé, le Zoom Éco quotidiennement sur Europe 1.
Et tout de suite, on retrouve Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour, Nikos.
La rubrique s'appelle « Vous savez quoi ?» et avec vous Jean-Philippe Ballas, on réfléchit. Et ce matin, c'est une histoire de prénoms et de ballons.
Oui, dans la série, on est vraiment fan de l'équipe de France et on a vraiment envie que tout le monde le sache. Je reconnais que c'est pas mal. Je vous parle de jeunes parents à Brive-la-Gaillarde en Corrèze qui ont voulu enregistrer le prénom de leur petit garçon né ce mois-ci. Plus exactement, deux prénoms.
D'accord.
Griezmann, Mbappé. Oui, vous avez bien compris, ce sont les prénoms. Personnellement, j'aurais donné cher pour voir la tête de l'officier d'état civil à cet instant, lequel a d'ailleurs décidé de saisir le procureur de la République. Il peut le faire, oui, s'il estime que le ou les prénoms, en l'occurrence, sont contraires à l'intérêt de l'enfant. C'est vrai qu'on imagine le genre de scène plus tard. Comment tu t'appelles? Griezmann Mbappé. Non, mais en vrai. En vrai, Griezmann Mbappé. Bon, en même temps, ça fait tout de suite un sujet de conversation. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, le procureur peut saisir à son tour le juge aux affaires familiales. Et si tout le monde conclut qu'il y a un problème, eh bien les parents devront trouver un autre prénom. Je précise que c'est le journal La Montagne qui nous a dégoté cette histoire dont je ne sais pas trop quoi penser. Alors oui, vous allez me dire, en 98, il y avait eu des petits Zidane.
C'est vrai.
Oui, sauf que Zidane, c'est aussi un prénom. Et vous savez quoi, Griezmann, je suis moins sûr.
Jean-Philippe Ballas. On pourrait s'appeler aussi Magic in the Air Ballas.
Comme ça, vous l'avez dans la tête toute la journée, c'est cadeau.
C'est clair.
La petite histoire, tous les jours avant 8h.
Et tout de suite, avant le journal de David Doucan, la météo de Laurent Cabrol, Nicolas.
La grande histoire du ciel.
Et de la pluie pour tous nous. Enfin, pour nous tous.
Pour cadeau, c'est pour moi. Allez, pour ceux qui de la pluie pour
grande,
tout le monde.
Une grande moitié nord de la France. Il est plus simple de cibler les régions où il ne pleuvra pas. L'Alsace, l'Auvergne, le Béarn, où le ciel sera voilé. Le bassin méditerranéen, hormis le Languedoc-Roussillon, nous avons du vent marin. Mais nous aurons des éclaircies à Lyon. Il fera assez beau sur toute la région PACA, à Paris, dès puis ce matin. Et ensuite, ça ira un petit peu mieux avec quelques averses, mais assez rares. Donc, si vous avez quelque chose à faire à Paris, faites-le dès maintenant. Température entre... Non, faites-le cet après-midi, pardon. Température entre 5 et 10 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et bienvenue si vous nous retrouvez en ce jeudi 29 novembre sur Europe 1. Il est 8h01. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Vous partez travailler, vous êtes tranquille chez vous, vous vous réveillez. Voici le journal de David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Les choses avancent peut-être enfin. Des porte-paroles des Gilets jaunes seront reçues par le Premier ministre demain. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les protestataires inventent de nouvelles formes de contestation. Une opération anti-TVA se prépare. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi survivra-t-elle à la chute de Carlos Ghosn? Les dirigeants des trois géants vont se parler aujourd'hui pour la première fois depuis l'arrestation. Le cas de Tariq Ramadan s'aggrave. Plusieurs anciennes élèves racontent des attouchements alors qu'elles étaient mineures. C'est ce que révèle un rapport d'enquêteurs. Europe 1 se l'est procuré.
Europe 1.
Édouard Philippe cherchait des interlocuteurs. Apparemment, il les a trouvés. Des porte-paroles des Gilets jaunes annoncent qu'ils seront reçus demain à Matignon à 14h, ce que les services du Premier ministre viennent de me confirmer. Le Premier ministre qui entame aujourd'hui une série de consultations sur le terrain. Les Gilets jaunes réfléchissent comment faire évoluer leur mouvement. Depuis Saint-Brieuc, en Bretagne, ils lancent une opération inédite. Ils veulent convaincre les commerçants d'arrêter de prélever la TVA pendant tout le mois de décembre. C'est une information du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon. Écoutez son reportage.
Les commerçants et artisans qui répondront à l'appel des Gilets jaunes vendront produits et prestations hors taxes, une TVA non collectée qui ne sera donc pas à régler à l'État. C'est le raisonnement des promoteurs de l'opération, Benoît Julou.
Ils vont faire sur le mois de décembre une déclaration de TVA à zéro, ce qui fait qu'ils pourront déduire leur TVA. Sur beaucoup de caisses enregistreuses, on a possibilité de faire des modifications à ce niveau-là.
C'est complètement illégal ?
C'est pas du tout illégal de faire une déclaration de TVA à zéro si on n'a pas rentré de TVA. Pourquoi on reverserait quelque chose qu'on n'a pas encaissé ?
Vous n'avez pas peur de risquer lourd dans cette opération ?
Bien sûr que si, qu'on risque lourd. Aujourd'hui, il y a des commerçants et des artisans qui sont au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Bah, plus rien. Si on a 10, 15 000 commerçants artisans qui jouent le jeu derrière nous, de toute façon, l'État ne pourra jamais contrôler tous ces gens-là et aller vérifier les comptes de chacun.
Top départ ce samedi 1er décembre. Hier, séquence recrutement par téléphone.
Ça peut être frappant, en fait.
Ouais.
Vu la situation actuelle, il faut faire des choses qui frappent. Depuis 6 mois, moi j'ai zéro.
Tu te rends compte ce que ça peut apporter au peuple et aux citoyens ?
C'est hyper impactant pour l'État.
Le fisc prévient, une fausse déclaration est passible d'une majoration allant de 40 à 80%. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe 1.
La colère de ces Français qui indéniablement a surpris le gouvernement et le président de la République. Europe 1 s'est attaché depuis le début de la semaine à essayer d'en comprendre les ressorts profonds. Nos reporters se sont installés à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous animerez d'ailleurs demain, Nikos, la matinale d'Europe 1 en direct de cette ville.
Absolument, avec Jean-Michel Apathy, avec Théo Manval, avec Carole Ferry sur place pour comprendre, décrypter sans juger, partager, donner la parole au-delà des caricatures et des idées reçues, être à l'écoute du quotidien de cette nouvelle ville qui existe seulement depuis une soixantaine d'années, où coexistent plusieurs appartenances, à la fois ethniques, à la fois religieuses, mais qui vivent depuis maintenant 6 décennies sur le sol français. Que font leurs enfants? Quelle perspective de travail? Quel est leur quotidien? Bref, et surtout le système D, et surtout écouter ce qui se passe du côté de la gronde des Gilets jaunes.
Et peut-être rencontrerez-vous les nombreux retraités de la ville qui, eux aussi, portent le gilet jaune. Ils sont de plus en plus nombreux à renoncer à certains soins médicaux parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Reportage sur place, Théo Manval.
Elle a peur d'aller chez le dentiste, mais pas à cause de la douleur. Simone, 87 ans, repousse depuis des mois le moment de changer son dentier.
J'appréhende parce qu'il va falloir que je donne 152 euros et des poussières. Ma pension, elle est à 715,24 €. Je dois déduire loyer, télécom, EDF, assurance. Il me reste que 200 euros.
Pas question donc d'en dépenser les trois quarts d'un coup. Elle a poussé la porte du bureau d'Isabelle au centre d'aide sociale de la mairie de Mourinx, comme de plus en plus de seniors face à la baisse des remboursements.
Il y a des médicaments qui sont déremboursés pour la circulation sanguine. Le Daflon, par exemple, n'empêche que le médecin le prescrit quand même. À l'heure actuelle, j'ai 2 à 3 semaines de délai pour avoir un rendez-vous, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans.
Car avec des budgets aussi serrés, même un changement de quelques euros a des conséquences, certains ne se permettent plus les petits soins du quotidien. Lucien est infirmier depuis 71. Il soigne désormais certains patients gratuitement.
Il y a même des gens qui ont du mal à manger les fins du mois. Ils sont juste avec du pain grillé qui date de 3 jours. On en est là. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Pardon.
Et ici, c'est encore l'entraide qui permet de relever les défis. À Mourinx, Théo Manval, Europe 1.
Voilà des larmes qu'on ne voudrait pas diffuser, mais qui font partie du quotidien. Ça se passe à Mourinx. On sera demain sur place pour la matinale d'Europe 1. À 8h15, l'interview politique sera menée par Audrey Crespo-Mara et elle aura devant le micro d'Europe 1 Marine Le Pen.
Europe 1, 8h06.
Il ne s'était pas parlé depuis l'arrestation de Carlos Ghosn.
Oui, vous faites référence aux dirigeants de Renault, de Nissan et de Mitsubishi. Ils se réunissent aujourd'hui en visioconférence. L'enjeu, c'est de savoir si Renault va conserver le leadership sur l'Alliance. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a déclaré que c'était non négociable. Mais les relations entre les trois entités sont très tendues depuis l'arrestation de Carlos Ghosn. Alors justement, Carlos Ghosn, lui, est toujours soumis au régime très sévère de la garde à vue japonaise. En France, très vite, l'idée d'une machination pour le piéger, pour le faire tomber, a été évoquée. Régis Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant au Japon. Cette idée d'une machination fait son chemin aussi chez vous, Régis, à Tokyo ?
Alors, beaucoup de Japonais parlent d'un coup d'État ou d'une opportunité, c'est-à-dire avoir utilisé des comportements délictueux ou peut-être pas pénalement répréhensibles, mais certainement moralement répréhensibles pour déclencher une crise qui aboutirait à la chute de Carlos Ghosn et à la reprise de pouvoir de Lee San sur son propre destin, oui.
Alors, par ailleurs, Carlos Ghosn, lui, est toujours en garde à vue. On en sait un petit peu plus à l'heure où on se parle sur sa stratégie de défense, Régis ?
On sait qu'il a commencé à constituer une équipe de défense très sérieuse avec un ancien procureur et avec un cabinet d'avocats d'affaires américain spécialiste de la défense des criminels en col blanc.
Et par exemple, sur les accusations d'abus de biens sociaux, les maisons là, dont il aurait bénéficié, que sait-on de sa défense ?
Le cabinet d'audit de Nissan aurait interrogé Nissan précisément sur ses achats et Nissan aurait répondu que ses achats étaient légitimes.
Merci Régis Arnaud, vous étiez en direct de Tokyo. On verra si l'évolution de cette enquête aura un impact sur la réorganisation de l'Alliance.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, l'affaire Ramadan qui rebondit. Des anciennes élèves témoignent d'attouchements alors qu'elles étaient encore mineures. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h10, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal de David Doucan avec un nouveau rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan.
Oui, les accusations viennent de Suisse où le théologien enseignait. Il est visé là-bas par une plainte pour viol, mais cela, nous le savions. Ce que nous vous révélons ce matin, c'est que plusieurs anciennes élèves témoignent d'attouchements alors qu'elles étaient mineures dans les années 90-2000. C'est ce que raconte un rapport d'enquêteurs suisses que s'est procuré Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Son comportement aurait pu alerter sa hiérarchie. Tous les témoignages recueillis par le rapport s'accordent sur un point. Tariq Ramadan aimait construire une relation particulière avec chacun de ses élèves, filles comme garçons, organisant des entretiens individuels et même des déjeuners en tête-à-tête hors de l'établissement. C'est lors d'un de ces rendez-vous que trois femmes, à l'époque collégiennes, décrivent chacune la même scène. Des caresses imposées par Tariq Ramadan dans la voiture les menant au restaurant. Deux autres, la première adolescente, la seconde tout juste majeure à l'époque, ont eu des relations sexuelles consenties avec leur professeur, mais disent-elles, sous son emprise. Les collègues du théologien dans les différents établissements, eux, n'avaient décelé aucun comportement répréhensible, rien de particulier, si ce n'est un homme brillant, doté d'un immense charisme et capable de fasciner ses élèves.
Information signée Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
On va maintenant s'intéresser à un sujet lourd. Celui de la fin de vie.
Oui, l'euthanasie est aujourd'hui interdite en France. Peut-être le gouvernement ouvrira-t-il un débat dans les prochains mois. Mais pour l'instant, il existe une loi votée en 2016 qui prévoit la possibilité d'une sédation profonde jusqu'au décès. En clair, les patients qui le demandent ont le droit d'être endormis jusqu'à leur mort. Voilà pour le cadre juridique. Mais la réalité de cette pratique sur le terrain est bien plus compliquée. Écoutez les explications d'Ève Roger.
C'est surtout la réticence des médecins qui fait obstacle à l'usage de la sédation profonde et continue dans les services hospitaliers, tout simplement parce que certains sont contre, explique Véronique Fournier, présidente du Centre national des soins palliatifs.
Un certain nombre d'entre eux pensent que la bonne pratique dans l'accompagnement de la fin de vie, c'est d'accompagner les patients, les yeux dans les yeux, jusqu'au bout, dans la relation, et non pas dans la sédation.
Et puis pour beaucoup d'entre eux, cette pratique qui consiste à endormir un patient jusqu'à la mort, eh bien c'est un geste ambigu qui flirte trop avec l'euthanasie, décrypte Claire Fekete, spécialiste de chirurgie pédiatrique.
Les médecins hésitent, refusent, acceptent à contre-cœur, parce qu'ils sont toujours en train de se dire « Mon Dieu, je vais être accusé de faire une euthanasie ».
Résultat, dans la pratique, pour ne pas être poursuivi, certains mettent en route la sédation très timidement, dit-elle, avec des doses insuffisantes, a constaté Pascal Gabzi, psychologue au CHU de Toulouse.
J'ai vu des cas de personnes qui avaient demandé une sédation profonde et continue jusqu'au décès, en accord avec leur famille, durer à peu près 3 semaines, ce qui était au-delà de l'insupportable.
Et le pire, c'est que parfois, raconte-t-elle, certains médecins n'arrivent pas à empêcher le patient de se réveiller.
Les explications d'Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Mon cher David, on va finir ce journal de 8 heures avec un événement culturel exceptionnel.
Oui, cela va démarrer en mars à la Villette. C'est une exposition qui a fait déjà le tour du monde. Elle est par exemple actuellement à Los Angeles. Cela s'appelle Toutankhamon, le trésor du pharaon. Les billets sont en vente dès ce matin, tant l'événement est attendu. La dernière fois qu'une exposition était consacrée à Paris à Toutankhamon, c'était Nikos en 1967.
Vous n'étiez pas né, moi non plus.
Oui, et c'était au Grand Palais.
C'est vous dire.
Vous m'avez surpris. Je pensais que vous étiez déjà allé pardonner.
Non,
pardonnez-moi
merci,
pour
à cette heure-là, oui.
À quelques années près.
Alors, écoutez... 3h du mat, oui. Je suis né même avant les années 50.
Écoutez, Didier Fusilier, il est directeur de la Villette.
En 1967, il n'y avait que 25 objets en tout. Là, c'est presque 160. On aura le sarcophage, les grands gardiens nubiens qui sont tellement splendides, des jarres et les amulettes, mais aussi des images, des films qui montrent comment on a découvert cette tombe il y a à peu près 100 ans. Et c'est la seule tombe qui ait été retrouvée intacte. On a des pièces majeures. On sait qu'il y a une forte demande puisqu'il n'y aura que 6 villes dans le monde qui auront cette exposition. Il y aura des quotas de public, évidemment. On ne pourra pas rentrer à des foules entières, donc il faudra réserver à peu près son heure. Je dis aux professeurs, surtout, de nous contacter parce qu'on a pu négocier aussi des tarifs très spéciaux pour que les enfants voient ça pour 5 euros. C'est la Villette, c'est le paradis des enfants ici.
Le directeur de la Villette, Didier Fusilier, au micro de Diane Chenouda.
Vous savez que Vincent Herouet a bien connu cette exposition.
Il s'en
souvient bien. Tout en camon.
Bon. Alors écoutez, Nikos, ils ont été bons, ils ont maintenant leur destin en main. Le Paris Saint-Germain a sorti un grand match hier soir au Parc des Princes et a battu Liverpool 2-1. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont maintenant en ligne de mire.
C'était le journal de 8h présenté par David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Et vous l'avez entendu, il est avec nous, Vincent Herouet, à 8h15 pour son coup d'œil à l'actualité internationale.
Un nouveau président élu en Géorgie, ou plutôt une présidente, c'est une Française, elle s'appelle Salomé Zourabichvili.
Oui, et depuis Napoléon, c'est rare qu'un Français dirige un autre pays que la France. Nos ministres sont en général invendables à l'export, de plus en plus, et même en solde. Par exemple, dans les agences de l'ONU, la diplomatie française n'a jamais réussi à y recaser Ségolène Royal ou Bernard Kouchner. Alors ne parlons pas de se faire élire au suffrage universel. Surtout une femme dans un pays à moitié oriental et tout à fait machiste. Triple bravo donc à Salomé Zourabichvili, mère et grand-mère, ancienne élève de l'ENA, fonctionnaire de catégorie A, 30 ans au Quai d'Orsay, qui a remporté hier à presque 60% la présidentielle en Géorgie. C'est le pays de ses aïeux, chassé par les bolcheviks. Quelle revanche éclatante ! Sa victoire nous change en plus de tous les binationaux qui veulent faire profiter leur patrie d'origine du génie français et qui échouent lamentablement. C'est humiliant que les Togolais n'aient pas plébiscité Kofi Annan, que les Bretons avaient pourtant adopté, que les Béninois aient renvoyé à ses chères études Lionel Zinsou, que Terra Nova a recueilli, ou que Manuel Valls soit à la peine à Barcelone. Ce matin, nous sommes donc tous un peu géorgiens.
Quel est le programme de la nouvelle présidente?
Eh bien, la présidente Zourabichvili ne va pas se prendre pour Junon, l'épouse de Jupiter. C'est un poste honorifique dans un régime parlementaire. C'est exactement le contraire de Bidzina Ivanichvili, l'oligarque qui règne sur le pays sans avoir aucun poste officiel, l'homme qui a choisi la députée et qui l'a fait élire présidente. Salomé Zourabichvili est une femme de caractère, pas le genre à seulement inaugurer les chrysanthèmes. Son ambition est d'arrimer la Géorgie à l'Europe. Avec la Russie, elle dit qu'il faut être plus intelligent que l'ennemi, qu'un petit pays doit résister aux provocations. Et alors ce réalisme montre que la députée Zourabichvili n'a pas toujours été une politicienne. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent ses opposants. Ils sont pro-américains, plus encore que des électeurs de Donald Trump, et 30 ans passés au Quai d'Orsay ne seront pas superflus à Salomé, à la présidente Salomé, pour les désarmer.
Merci Vincent Herouet sur Europe 1. Nous avons une autre franco-géorgienne qui vit à Paris et qui voyage dans le monde. C'est Katia Bouniatichvili, immense pianiste et concertiste dans le monde entier.
Et vous avez aussi, évidemment... Madame Carrère-Dancos, qui est la cousine germaine de Salomé Zourabichvili.
Vous savez tout, grâce à Vincent Herouet, tous les jours sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h17.
Qui est votre invité, Audrey Caspomara?
Il y a un an, on la disait finie. Aujourd'hui, on se dit qu'elle pourrait être la grande gagnante de la colère des Gilets jaunes. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National et députée du Pas-de-Calais, sera mon invité.
A tout de suite, juste après ça.
Il est 8h20, Nikos Aliagas.
La présidente du Rassemblement National et députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, est votre invitée, Audrey Caspomara.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Depuis la présidentielle, votre parti a traversé une crise financière après la saisie des fonds par la justice, une crise logistique avec le départ de votre bras droit Florian Philippot. peut-être même une crise d'identité avec le changement de nom de votre parti. Bref, les Gilets jaunes ne sont-ils pas un peu votre bouée de sauvetage ?
Non mais pardon, enfin il n'y a aucune crise, il faut arrêter tout ça. Nous allons très bien, merci beaucoup. Et avant même les Gilets jaunes, nous étions donnés à 22% aux élections européennes et en tête de cette élection. Donc il faut arrêter cette fable. Et puis on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler des Français.
Alors, ouais. Parlons d'abord d'Emmanuel Macron. Voilà. Dans son discours, il a rappelé que pendant 40 ans, la gauche et la droite se sont succédés au pouvoir sans régler le problème du chômage, des banlieues, de la dette. Finalement, vous faites tous les deux le même diagnostic.
Oui, il a raison, sauf que lui, précisément, il gouverne avec cette gauche et cette droite qui ont échoué depuis 40 ans. Donc c'est assez paradoxal qu'il vienne aujourd'hui s'en servir comme excuse.
Mais vous avouez que si vous aviez été élu, vous auriez fait le oui, même. Vous auriez
madame,
dit aussi le poids de l'héritage.
Oui, mais moi, je n'ai aucune responsabilité dans la situation de la France actuelle. Aucune responsabilité dans le chômage de masse, aucune dans l'insécurité galopante, aucune dans la situation de ces 1 Français sur 2 qui gagnent moins de 1700 euros par mois et qui sont écrasés d'impôts puisque nous avons touché un seuil de 1000 milliards d'impôts. Hein, quand même, c'est juste quelque chose d'absolument incroyable.
C'est l'héritage de 40 ans.
En revanche, Emmanuel Macron, lui, il a une responsabilité, d'abord dans les 5 dernières années parce qu'il a été un des principaux conseillers de François Hollande, mais surtout il a pris avec lui toute une série de personnes, de droite comme de gauche, qui, eux, ont démontré leur incapacité à apporter des solutions à la France.
Sébastien Chenu, porte-parole de votre parti actuellement, l'un de vos plus proches, dit que partout en France, il a le sentiment de reconnaître vos sympathisants chez les Gilets jaunes parce qu'ils tiennent le même discours que vous, dit-il. Estimez-vous que le Rassemblement national est majoritaire chez les Gilets jaunes ?
Mais je ne sais pas ça. Moi, je ne suis pas là pour politiser le mouvement des Gilets jaunes. Je suis là pour vous parler d'une France qui se sent humiliée. Voilà. Parce qu'on leur a dit, en réalité, vous n'êtes rien. Vous êtes des riens. Et en plus, on les culpabilise. On les humilie et on les culpabilise. Ça fait des années qu'on leur dit, vous travaillez pas assez, vous prenez votre retraite trop tôt, vous êtes réfractaires aux réformes, vous êtes pas assez formés, vous êtes pas assez mobiles, vous êtes pas assez vivre ensemble. Au passage, on les traite de xénophobes, d'égoïstes, j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, ils viennent dire stop. Maintenant, ça suffit. La classe politique s'est occupée prioritairement et même exclusivement de toutes les minorités possibles et imaginables dans notre pays depuis des années. Nous sommes la majorité et nous méritons la considération et le respect.
Parmi les réclamations, les revendications, il y a la hausse du SMIC. Édouard Philippe annonce qu'il n'y aura pas de hausse du SMIC, pas de coup de pouce. La CGT réclame que le SMIC passe de 1500 à 1800 euros. Vous, pendant la campagne de 2017, vous disiez non à la hausse du SMIC car ça entraînerait une charge supplémentaire pour les entreprises. Finalement, face à cette revendication sociale, vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron
que de
la CGT.
Madame, il faut lire mon programme jusqu'au bout.
Je vous ai suivi, je vous ai entendu. Pendant la campagne de 2017,
non,
vous ne vouliez pas de la hausse du SMIC parce que ça entraînerait une charge supplémentaire pour les entreprises.
Oui, mais parallèlement, je proposais une prime de pouvoir d'achat par la prise en charge de la part des charges sociales et que je finançais par une contribution aux importations de 3%. Vous avez oublié cette partie-là.
Je vous parlais du SMIC.
Non, mais d'accord, mais ça a entraîné une augmentation du salaire net. C'est précisément l'objectif qui est poursuivi. Donc c'était
une très bonne solution puisque ça permettait
l'augmentation du salaire net dans des proportions très importantes sans qu'il y ait une augmentation des charges qui pèsent sur les TPE et les PME dont on sait que, compte tenu de la politique menée, elles sont dans de lourdes difficultés. Vous voyez, donc c'était tout bénéfice, si je puis me permettre. Sauf que je touchais là à un tabou qui était effectivement la mise en œuvre d'une contribution aux frontières refusée par tous les mondialistes qui colonisent la vie politique française.
Samedi, Christophe Castaner s'en est pris à vous. En échange, le Rassemblement national a lancé une pétition pour réclamer sa démission. En 2011, déjà, vous aviez réclamé la démission du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. En 2016, celle de Bernard Cazeneuve. En 2018, celle de Gérard Collomb. Aujourd'hui, celle de Christophe Castaner. C'est systématique chez vous de demander la démission.
ministres de l'Intérieur ont été des nullités depuis des années, qu'ils n'ont réglé aucun problème, qu'ils ont laissé se développer une insécurité endémique sans protéger les Français, qu'ils n'ont jamais rien fait contre la criminalité dans les banlieues, qu'aujourd'hui nous sommes un des pays qui sommes submergés par la drogue, livrés aux mains des fondamentalistes islamistes. Et excusez-moi de vous dire que le bilan des différents ministres de l'Intérieur ont été extrêmement mauvais.
Donc aujourd'hui,
mais
vous demandez
aujourd'hui,
la démission de Christophe Castaner.
Tout, puisque le ministre de l'Intérieur, non seulement ne fait pas son boulot, il tape sur le peuple, il fait taper sur le peuple français, et en plus, il fait de la politique politicienne en accusant faussement et malhonnêtement un adversaire politique.
Donc, si je peux me permettre,
lui, c'est le summum, quoi.
Est-ce que vous demandez aussi la démission d'Emmanuel Macron ? Macron démission, c'est l'un des slogans les plus populaires dans les manifestations des Gilets jaunes.
Non, madame, moi je respecte les institutions et j'essaye de trouver le moyen de sortir d'une crise que je considère comme terriblement profonde, voilà, et qui se heurte à un refus absolu du gouvernement et du président de la République, non seulement d'apporter la moindre réponse, mais même d'apporter la moindre considération à ce mouvement qu'ils n'ont eu de cesse de diaboliser, d'accuser depuis maintenant 13 jours que ce mouvement est né.
Marine Le Pen, vous appelez tous les Français à manifester samedi. Souhaitez-vous à nouveau que les Champs-Élysées soient ouverts aux Gilets jaunes malgré les violences de samedi dernier?
C'est-à-dire que je pense que si les Champs-Élysées sont interdits aux Gilets jaunes, ce sera ressenti par les Gilets jaunes en réalité comme un acte d'humiliation supplémentaire. Vous voyez, une forme de mépris supplémentaire. Mais c'est quoi les Champs-Élysées ? C'est réservé à qui exactement ? C'est à quelle caste ? Qui a le droit d'aller sur les Champs-Élysées ? Les touristes seulement ont le droit ?
Si les responsables des CRS...
Les Champs-Élysées, c'est une avenue qui est le symbole de la France.
Mais Marine Le Pen,
or, les
si
Gilets
les responsables
jaunes,
des CRS...
c'est le peuple français. Donc, si vous voulez, eux, ils ont envie de se réapproprier ce qu'ils considèrent comme leur appartenant. Vous comprenez ?
Si les responsables des CRS vous disent que c'est une avenue qui est particulièrement difficile à sécuriser, qu'il y a de vrais risques.
Eh bien,
pourquoi vouloir absolument aller sur les Champs-Élysées alors qu'il y a
ce n'est pas
le
ce que je
Mars,
dis, madame.
Endroits, à Paris,
madame,
la Tour
excusez-moi,
Eiffel.
Mais vous savez, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai demandé au gouvernement d'autoriser les Champs-Élysées pour manifester. Si le gouvernement refuse cela, alors il ferme les Champs-Élysées. Il sait très bien le faire. Il l'a fait le 11 novembre. Il l'a fait dans d'autres circonstances. Mais il y a une chose qu'il ne va pas faire, en revanche, hein, c'est faire ce qu'il a fait samedi dernier, c'est-à-dire ouvrir les Champs-Élysées. Et quand tout le monde est sur les Champs-Élysées, donner ordre au CRS de charger la foule. Ça n'est plus admissible.
Mais ce matin, est-ce que vous maintenez que la manifestation de samedi doit avoir lieu sur les Champs-Élysées ?
Je pense que le gouvernement devrait autoriser, ce serait une forme de considération de la part du gouvernement à l'égard des Gilets jaunes, d'autoriser cette manifestation en l'encadrant, encore une fois, en mettant en place les conditions pour que des éventuels radicaux, casseurs, etc. soient immédiatement interpellés pour pas qu'ils salissent cette belle et grande manifestation populaire.
Merci Marine Le Pen.
Marine Le Pen était votre invitée, Audrey Caspomara, pour l'interview politique.
Europe 1.
Il est 8h28.
À suivre la revue de presse avec David Abiker. 8h45, la revue de presse avec Nicolas Canteloup. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Beaucoup de pluie aujourd'hui sur le pays, Laurent Cabrol.
Oui, essentiellement, Nikos, sous les régions de la moitié nord. Alors, quel temps fait-il chez vous ? Tenez, on va regarder ensemble. Région PACA, du soleil. À Lyon, des éclaircies. Sur le bassin méditerranéen, des vents marins et donc sur le Languedoc-Roussillon, des pluies cévenoles. Sur le Béarn, l'Auvergne, la Lorraine et l'Alsace, un ciel voilé. Le reste, c'est de la pluie. Littoral de la Manche, de la pluie. À Paris, des pluies ce matin. Ensuite, ça ira beaucoup mieux dans l'après-midi. Mais enfin, c'est moyen quand même. Et puis, Poitou-Charentes, Limousin, Centre, Champagne-Ardenne, Aquitaine, Champagne. Non, oui, Champagne, et Champagne de nouveau. Et Morvan, dans toutes ces régions, vous aurez de la pluie en deuxième partie de journée. Température entre 12 et 17 degrés. Et enfin, 13 à Paris, 14 à Lyon, 15 à Bourges, 16 à Clermont et 17 à Marseille. Voilà.
À tout à l'heure, Laurent Cabrol. Merci pour le point
Nous
météo.
Sommes le jeudi 29 novembre, il est 8h32.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
On retrouve David Abiker pour sa revue de presse, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Tiens, je vais commencer par une question un peu intime. Vous avez pris des fessées, vous ?
Non. Aucune.
Nikos ?
Enfin, pas
un peu, j'ai pris quelques...
Vous en avez donné ?
Non, j'ai du mal.
Ben tant mieux, parce que ce matin, la fessée...
C'est vrai, je ne peux pas lever la main. Je peux pas.
Tant mieux, parce que la fessée fait la une des journaux, mais avec des titres qui claquent et qui sonnent comme une mauvaise habitude, justement. La Voix du Nord, fessée, punition, le coup d'arrêt. L'Union, la fessée prend une claque. Et le Parisien, aujourd'hui en France, semble douter qu'on puisse renoncer à la fessée. La fessée, est-ce vraiment fini? Ce qui fait dire à Michel Klekovicki, dans le Républicain Lorrain, la France a passé son gilet jaune. L'alerte rouge menace en Ukraine. Et de quoi vont parler les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale? D'un sujet d'une extrême gravité avec lequel on ne badine pas, jeu de mots, la fessée. Et bien justement, s'il existait un lien entre cet attachement à la fessée, l'écologie punitive et le mouvement des gilets jaunes, quel serait ce lien? Ce serait peut-être la crise du dialogue, la crise de la négociation, alimentée par ce sentiment des gilets jaunes de prendre une raclée fiscale à la fin de chaque mois. Bref, la fin de la fessée, c'est une invitation au dialogue, à l'écoute, à la patience. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut se traduire par des coups de pied aux fesses dans les sondages d'opinion, lesquels précèdent souvent une déculottée électorale.
La fessée va donc disparaître officiellement, mais le rapport de force est à la une de l'Express ce matin.
Avec ce titre, France contre France, et l'interview du géographe Christophe Guillouis qui met en lumière une inversion de ce rapport de force entre les élites et le peuple des gilets jaunes. La France populaire a fini par imposer son diagnostic aux gagnants de la mondialisation, un peu comme l'inversion du rapport parent-enfant. Et un peu plus loin, Guillouis montre en substance qu'il existe une guerre de représentation de ce mouvement, comme si certains voulaient l'infantiliser. On décrit en gros, dit-il, des cutéreux, un peu cons et racistes qui n'ont d'autre ambition que de polluer. Évidemment, on se trompe. Tant qu'on verra les gilets jaunes comme des enfants en colère, on n'y arrivera pas, dit-il en substance. Sauf qu'en une de l'opinion, Nicolas Bétou se désole de ce qu'il appelle la léonardisation de la politique. Je vais vous expliquer ce que c'est.
Léonardin ?
Eh ouais.
François Hollande ?
En clair, mardi, le président prend la parole à la télévision et cette parole d'autorité est immédiatement contestée, selon Nicolas Bétou, et critiquée par des gilets jaunes sur toutes les chaînes de télé dans la foulée. Exactement comme lorsque Léonardin, 15 ans à peine, avait défié l'autorité du président Hollande qui venait de lui proposer des solutions de retour raisonnables. Mais les arguments raisonnables, justement, qui les entend aujourd'hui dans ce climat passionnel? Ce matin, tous les journaux reviennent par exemple sur cette France championne de l'impôt. L'impôt qui pèse plus de 48% du PIB du pays contre 40% en moyenne en Europe. Ils sont moins nombreux, les journaux, qui, comme le Figaro ce matin, rapportent aujourd'hui l'augmentation du salaire moyen français entre 2005 et 2015, passé de 1 904 € à 2 250 € net d'impôts. Mais avec cette nuance que la progression n'a pas profité à tous les Français de la même façon, loin de là.
Et puisqu'on parle fessé David Abiker, on parle autorité et dialogue social, on relira avec le sourire une sortie d'Alain Juppé, c'était dans le Parisien Magazine le 20 août dernier.
L'ancien Premier ministre, devenu l'emblème malgré lui de la rigidité en matière de négociation, évoquait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, les châtiments corporels de ses maîtres ou encore les coups de martinet à la maison. « Je n'ai pas l'impression d'avoir été traumatisé », disait l'ancien Premier ministre, longtemps mentor d'Édouard Philippe, notre Premier ministre, à qui certains reprochent aujourd'hui, dans le Parisien, aujourd'hui en France, d'être un peu trop droit dans ses bottes, alors qu'il recevra enfin les gilets jaunes demain. Il y en a un qui n'a pas attendu pour saisir l'intérêt de les écouter et de leur donner la parole à ces gilets jaunes, c'est Cyril Hanouna, l'enfant roi du PAF. Hanouna, ainsi que le surnomme l'Express cette semaine, qui lui consacre un portrait pas dénué d'éloges malgré les remontées de bretelles du CSA. Cyril Hanouna, dont les gilets jaunes dopent l'audience depuis qu'il s'en est fait le porte-voix dans son émission et qu'il les y invite régulièrement. Cyril Hanouna qui a même reçu un brevet de médiation politique du député La République En Marche, Jean-Baptiste Gébari, qui l'avait invité à dialoguer avec des gilets jaunes sur son plateau. Voilà ce qu'il dit le député. Je l'ai trouvé bon régulateur de la parole, Cyril Hanouna. Il a su mettre à l'aise les gilets jaunes, un peu stressé. Hanouna, spécialiste du dialogue social, qui l'eût cru à part lui. On va terminer, Nikos, par un conflit dont la France a le secret et qui oppose des militants véganes de l'association PETA aux maires et aux habitants d'Issijac en Dordogne et que nous rapporte ce matin Ouest France. Les militants veulent débaptiser une des ruelles du village médiéval nommée rue de la saucisse en rue de la saucisse, du nom des saucisses véganes où la viande est remplacée par du soja. Comme vous dites. Et là encore, on a un malentendu à la française, une carence de dialogue social. La rue ne s'appelle pas rue de la saucisse à cause d'une saucisse de porc, mais tout simplement parce qu'il y a bien longtemps, y vivait une vieille dame qui marchait courbée dans la rue et on l'appelait la saucisse. Bref, à Issijac, comme partout en France, on joue parfois à se faire mal à coups de saucisse, mais il y en a quand même ça.
Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny.
Qui chante, David Abiker?
Ben, je sais que c'est une chanson de Boris Vian, mais alors j'ai oublié qui chantait.
Et vous m'avez pris de court.
Je ne sais plus qui c'est, on va nous le dire.
Magali Noël, me souffle-t-on voilà. En régie. Merci Nicolas Baudin.
Europe 1. Et il est 8h38.
À suivre la revue de presse de Nicolas Canteloup et on passera un coup de fil à Nicolas Saint-Brice. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ce garçon s'apprête à réaliser un grand défi sportif, l'un des plus difficiles au monde, traverser l'Atlantique à la rame. Et pour une bonne cause, s'il vous plaît.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 8h40, les principaux titres de l'actualité à revenir ce matin, Nico Saliagas.
Des porte-paroles des Gilets jaunes reçus demain après-midi à Matignon. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, sera présent aux côtés d'Edouard Philippe, qui lance ce matin les rencontres sur la grande concertation annoncée par Emmanuel Macron. Invité d'Europe 1, Marine Le Pen demande au gouvernement d'autoriser les Gilets jaunes à manifester samedi sur les Champs-Élysées. De quoi alimenter la grogne des Français. Le prix de l'électricité pourrait grimper de 2,3% l'an prochain et de 3,3% en 2020 selon les calculs du Parisien. Cela représente 12 euros par ménage en 2019. Jonathan Daval à nouveau face à la justice, soupçonné du meurtre de sa femme. Il sera interrogé ce matin à Besançon. Il accuse désormais son beau-frère du meurtre. Un mot pour la météo à nouveau pluvieuse avec des vents parfois très violents. Seul le flanc est et le sud-ouest seront épargnés. Température de 9 à 18 degrés.
Europe 1. Nico Saliagas, c'est votre journée.
Tous les matins, sur notre antenne, nous passons un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, on est en ligne avec un jeune homme. On peut le dire un peu fou, parce qu'il faut être un peu fou pour réaliser le défi qu'il s'est fixé. Bonjour Nicolas Saint-Brice.
Bonjour Nicolas.
Le 12 décembre prochain, vous allez participer avec votre camarade Guillaume Barrage à l'assaut de l'Atlantique, à la rame, en partant des Canaries et en rejoignant l'île d'Antigua dans les Caraïbes, une île anglophone très connue et touristique. Et cette traversée se fait dans le cadre du Talisker Challenge. C'est une course d'environ de 4800 km. Et vous le faites pour quelle cause?
Nous ramons pour l'école à l'hôpital. L'école à l'hôpital, c'est une association qui va avoir 90 ans l'année prochaine et qui permet chaque année à plus de 4000 élèves de 5 à 25 ans de bénéficier de cours particuliers au chevet lorsqu'ils sont hospitalisés. Ces cours sont dispensés par plus de 500 professeurs et enseignants bénévoles qui permettent justement de dispenser 24 000 cours tous les ans auprès de ces enfants hospitalisés.
Pourquoi vous faites ça avec votre copain? Parce que vous vous êtes rencontrés il y a quelques années, vous prépariez les championnats de France d'aviron universitaire. Vous avez besoin de défendre une cause. Pourquoi l'école à l'hôpital est une cause qui vous touche?
Alors, nous pensions que la plus grande des injustices, déjà, c'est représenté par les enfants malades. Nous pensons aussi que le premier des combats, c'est bien évidemment l'éducation. Et à la croisée de ces causes, se trouvait l'école à l'hôpital. Nous sommes fiers aujourd'hui de porter les couleurs pour traverser l'Atlantique. Notre but ici, c'est de faire parler de l'association, de faire connaître son action, et évidemment d'appeler aux dons pour le fonctionnement de l'association.
J'entends, ne stressez pas, on va parler tranquillement, vous inquiétez pas. Vous êtes un trentenaire, actif, voilà, très, très mobilisé. J'imagine que vous avez consacré du temps à vous préparer. Comment va se passer justement la mise en condition physique avant le coup d'envoi du 12 décembre?
Alors, ça fait plus de 2 ans que déjà nous nous préparons physiquement.
2 ans déjà.
Et donc, les derniers jours seront... ce que nous conseille notre coach, c'est de nous faire plaisir. Donc, un peu d'entretien sans trop forcer, beaucoup d'alimentation pour continuer à prendre du poids, parce qu'évidemment, on a besoin de réserves quand on traverse.
Il faut prendre du poids, en fait. Il faut partir plutôt grassouillé pour avoir des réserves, comme vous dites.
Ah oui, complètement. On va brûler beaucoup plus de calories qu'on pourra en consommer. On va brûler presque 8000 calories par jour. On va essayer donc d'en consommer 5000. Donc évidemment, il y a un déficit. Et ce déficit, aujourd'hui, c'est autour de la taille que...
La traversée va se faire entre 40 et 90 jours. Vous avez une idée du temps que vous allez mettre, vous? Quel est votre objectif?
On aimerait traverser en moins de 50 jours. Le record du monde est à 40. Donc on aimerait évidemment s'en approcher. Notre ambition, c'est de passer sous la barre des 50.
Vous dormez où?
Alors, on dort dans une petite cabine qui est à l'arrière du bateau, dans laquelle on a largement la place de s'allonger, et on dort par quart de 2 heures. Donc, lorsqu'on dort 2 heures, le coéquipier peut, lui, ramer sur le pont pour que le bateau continue en permanence d'avancer.
Vous le faites pour une bonne cause, pour le site et pour l'association L'École à l'Hôpital. Vous pouvez aller sur le site, sur Internet. Merci beaucoup, Nicolas Saint-Brice, d'avoir été notre invité ce matin. Vous allez, avec votre camarade Guillaume Barrage, traverser l'Atlantique à la rame. Merci.
Europe 1.
Il est 8h44, à suivre, Nikos.
À suivre, un imitateur. Mais il n'est pas tout seul. Il a toujours Julie à côté de lui. Julie, comme une balise de sécurité. Nicolas Canteloup, dans les flots, avec sa revue de presse. Qu'à tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio. Audrey, elles sont encore. Audrey Crespo-Mara et son invité.
Madame Le Pen, vous avez subi depuis quelques années une crise logistique, une crise de confiance, une crise personnelle avec le départ de Florent Philippot, une crise financière. Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes, ce mouvement est une bouée de sauvetage, une bouée jaune de sauvetage?
Madame, non, s'il vous plaît, madame. Arrêtez, tout va très bien, merci. Tout va très bien, madame la marquise. On n'est pas là pour parler de nous, nous sommes là pour parler des gens, s'il vous plaît, d'en recentrer le sujet.
Est-ce que vous auriez reconnu, est-ce que vous reconnaissez l'héritage des politiques précédentes dans la situation actuelle, cette crise?
Madame, nous n'avons jamais été aux commandes. Je vous rappelle, nous n'avons aucune responsabilité dans ce désastre. Aucune responsabilité dans la baisse du pouvoir d'achat. Aucune responsabilité dans la situation actuelle, je le rappelle. Aucune responsabilité dans la crise qui est celle-ci. Nous sommes totalement irresponsables depuis 40 ans.
S'il vous plaît, vous avez réclamé la démission de tous les ministres de l'Intérieur, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Gérard Collomb, Christophe Castaner, tous les ministres de l'Intérieur, sans exception.
Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Ils sont nuls. Ouvrez les yeux. Que disent-ils? S'il vous plaît, je vais vous tracer le portrait de notre France. Les mafias sont partout. Les kilos de drogue qui se déversent dans les quartiers, dans les banlieues, dans les campagnes. L'islamisation, la radicalisation, le fondamentalisme qui gangrène nos campagnes et nos banlieues. Alors, Castaner, lui, bien sûr, écoutez-moi bien, vous allez tellement avoir peur que je vous flinguer le moral, vous n'allez même pas avoir envie de sortir de chez vous, vous allez voir. Et alors donc, la démission de Castaner, c'est le pompon, lui c'est le pompon, franchement. D'ailleurs, je demande la démission instamment, puisque j'ai écouté votre antenne, et la démission de Jean-Michel Apathy, de M. Barret, de M. Abiker, et surtout de M. Cabrol, parce que lui c'est le pompon.
Me laissez le tranquille.
Avec la météo, excusez-moi M. Lagasse, c'est météo qui va nous annoncer, il va nous flinguer la manif des Champs-Élysées. Il n'y a qu'à ouvrir ses fenêtres.
Si fait beau, si j'annonce qu'il fait beau, qu'il flotte, on me traite de menteur. Si j'annonce qu'il flotte et qu'il flotte, je me fais engueuler. Non, s'il vous plaît. Non, on ne met pas toutes les sauces, s'il vous plaît.
Bon, bah, merci. Merci. On poursuit avec le titre principal de l'actualité. C'est à vous, Nikos.
Ouais, ma chère Julie. Oui, l'actualité tombe de partout. Vraiment, il pleut de l'actu. Et ce matin, l'actu se conjugue en musique.
De la victoire du PSG en Ligue des Champions hier, Nikos?
Pas du tout, je parle des taxes. La France est championne d'Europe des taxes, chers auditeurs. C'est nous qu'on en a le plus dans toute l'Europe. On est number one, ballon d'or des impôts. Non, pour la Ligue, la vraie Ligue des Champions de football, on va attendre encore 3-4 siècles.
Ça va aller. Bon, d'accord. Merci Nikos, à demain. Les Merci. Gilets jaunes ont transmis leurs revendications. On va appeler Emmanuel Macron pour avoir sa réaction sur cette liste de doléances.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les enfants. Oh, 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 c'est bientôt Noël. J'espère que vous avez été bien sages.
Non, comment ça, c'est bientôt Noël? Mais enfin, c'est dans un mois.
Ah, c'est vous, Madame Julie. Oui, heureux de vous entendre dire que c'est dans un mois. Pensez bien à passer l'information aux Gilets jaunes, du coup, parce qu'ils m'ont envoyé leur liste. Alors, suppression du Sénat. Ils veulent une suppression du Sénat. Ils veulent une jolie baisse des taxes, une magnifique création d'une assemblée citoyenne, un joli référendum et une interdiction du glyphosate.
Et vous n'avez rien lâché? Vous n'allez rien lâcher, vous?
Non, parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils ont été très vilains, les Gilets jaunes. Ils ont tout cassé Paris.
Non, mais vous comprenez leur colère, quand même.
Oui, je comprends la colère. J'entends la misère. J'entends tous les cris, les SOS. Mais, chers Gilets jaunes, vous devez comprendre que l'État non plus n'a plus d'argent. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on prend le vôtre.
Oh bah tiens, allez, c'est si simple. Merci Monsieur le Président,
au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Le gouvernement a annoncé que les préservatifs allaient désormais être remboursés par la Sécurité sociale. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie, bonjour.
Oui, bonjour madame.
J'attendais Strauss-Kahn, mais pardonnez-moi.
Il arrive.
Ah, pardon.
On dit rien.
Soyez patient. Il faut des préliminaires, monsieur Aliagas. Ah,
excusez-moi, monsieur le ministre.
Oui, désormais, les préservatifs seront remboursés. Et sur ce point, il n'y a pas de débat. Monsieur Aliagas, pour avoir droit au remboursement, c'est très simple. Il vous suffira de vous rendre à la Sécurité sociale avec votre vieux préservatif et on vous en donnera un neuf.
Oh non, arrêtez.
Tout un programme.
C'est du concret en tout cas. C'est des réponses concrètes. C'est une réponse à la colère des Gilets jaunes sous le pouvoir d'achat.
Oui, sur le pouvoir d'achat. Bah, c'est petit comme coup de pouce financier. Hein. Puis
non,
c'est
pas aussi petit que vous l'imaginez. Non, c'est une réponse à la colère des Gilets jaunes. Parce qu'en leur donnant des préservatifs gratuits, au moins on évite qu'ils se reproduisent. Et moins il y a de Gilets jaunes, mieux on se porte. C'est une mesure de prévention, vous l'avez compris.
Ah, d'accord.
Bonjour.
Eh ben Nikos, le voilà Nikos.
Welcome.
Bonjour, je veux dire rebonjour à M. Lagas avec qui j'étais hier soir.
Non, c'est pas vrai.
Racontez Nikos.
J'aime quand il se justifie. C'est Dominique Romantique, bonjour à tous.
Bonjour.
Écoutez, c'est une magnifique initiative, ce remboursement des préservatifs. Mm. Au quotidien, vous savez, au quotidien, ça pèse très lourd sur un budget. Je vois, à titre personnel, dans le panier à la ménagère, c'est très lourd.
Voilà.
J'étais à deux doigts d'enfiler d'ailleurs un gilet jaune.
Oh là là.
Ça a été le comble.
Le comble, pourquoi?
Parce que j'ai plus de propension à enlever mes vêtements qu'à en porter de nouveaux. C'est vrai que ça va trop loin.
Bon, merci. Merci, messieurs.
À ce soir,
le maire.
Oh, ben, je vous en prie.
Ça y est, c'est parti pour enfilez, la légende.
Enfilez
là,
votre ouais. gilet jaune.
Allez, on va revenir maintenant sur le rôle joué par François Bayrou auprès du président Macron. La presse titrait « François Bayrou, le lanceur d'alerte ». François Bayrou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez alerté Emmanuel Macron sur le problème des gilets jaunes, vous.
Hein? Oui. Bien parce que, comme tous les Français, je suis, enfin comme pour beaucoup de Français, je suis sans, sans emploi. Alors, je n'ai que ça à faire d'observer comme je le peux.
Bah, vous pensez qu'Emmanuel Macron est un peu coupé du monde, c'est ça? Mais et qu'est-ce qui fait que vous, vous avez su garder le contact avec les Français alors?
Eh bien, c'est parce que je suis une sorte de... Vous savez, je suis une sorte de perf...
De
perf...
De perfectionniste.
Non, de perf... De perfouras. J'observe le monde du haut de ma vigie.
Ah, d'accord.
Votre vigie.
À bientôt, François Bayrou. Allez, malgré les violences sur les Champs-Élysées, les Français approuvent de plus en plus le mouvement des Gilets jaunes. On va voir ce qu'en pensent les citoyens du côté de chez Jean-Jacques Bourdin.
Ah. Oui, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur RMC, RMC Radio Merdier sur les Champs. Et oui, oui, car ce matin, une fois n'est pas coutume, on va parler, ça fait 13 jours que ça dure, j'en peux plus, on va parler des gilets jaunes. Et je prends tout de suite un auditeur, prends ma
c'est
fiche.
C'est qui, c'est qui?
Je au prends ma fiche, Christine, s'il vous plaît, ma fiche. Christine, qu'est-ce que vous faites avec ce gilet jaune? Non, depuis quand une femme se plaint?
Oula.
Christine, l'affiche. Vous me donnez l'affiche. Bon, écoutez, on discutera de votre augmentation après l'émission. Voilà, ok, merci. Alors, nous avons un auditeur au téléphone. Un auditeur qui ne va pas bien, qui n'a plus d'argent. Je vois sur ma fiche qu'il est ruiné, je crois.
Ouais, c'est Jacques. Non, mais oh. Je ne suis pas ruiné, à peine pas encore. Non, je suis René.
Ah, René, oui.
Pardon, René. Ah, oui. René, Christine, vous mettez un gilet jaune et en plus vous écrivez mal. Alors. Alors, René, vous êtes gilet jaune vous-même, je ne comprends pas bien ça, ça part dans tous les sens. Il y a de plus en plus de courants différents, j'ai l'impression, les gilets jaunes. Vous-même, où vous situez-vous dans ces gilets jaunes?
Ah, pour être franc, c'est vrai que j'ai eu du mal à choisir, tu vois, parce que on m'a proposé d'adhérer, tu vois, à gilet jaune et écologie, parce que tu vois, ça se structure maintenant.
Ouais.
Mais j'avais un collègue taxi qui me proposait un poste de porte-parole Tu vois, c'est pas quand même, tu vois, tes porte-parole, c'est un truc à gilet jaune et il y en aura le bol. Tu vois, qu'il y a une branche. Une branche. Voilà, sinon il y avait gilet jaune et il y en a marre. Gilet jaune et il y en a plein le cul aussi. Donc, tu vois, j'avais un peu le choix, tu vois, c'est différentes sensibilités, tu vois. Et finalement, ouais. Tu vois, après réflexion, j'ai rejoint une branche dissidente qui m'a beaucoup plu par sa définition. C'est gilet jaune et putain, ça suffit maintenant. Parce que, tu vois, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, c'est exactement ce que je pense. C'est que putain, ça suffit maintenant.
Et oui, finalement, vous avez rejoint une branche dissidente. Gilet jaune et putain, ça suffit maintenant. Parce que c'est ce que vous pensez. Et dites-moi, René, vous irez manifester sur les Champs-Élysées samedi?
Ah, ben c'est sûr, on prépare les manifs, on est sur le pied de guerre, là. J'ai l'hymne, là.
Un hymne?
Écoute ça, ouais. Les collègues. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. Et dans la gueule des nantis, on va faire voler les pavés aux Champs-Élysées. Hein, hein,
on va faire voler les pavés aux Champs-Élysées. Quelle belle mélodie, René. Vous savez que vous chantez comme un rossignol à l'aube, René.
Oh là là.
Vous savez quoi? Vous devriez faire The Voice.
Ah, bah, manquez plus que ça, tiens.
Parlez-en à Nikos Aliagas. Je suis sûr qu'il retournera son fauteuil.
Hein,
à vous, Julie.
Je note, c'est comment le prénom?
C'est René. René.
C'est le même depuis des années.
Ah bah oui, c'est le héros de l'émission. Un des
merci beaucoup, merci Julie, merci Nicolas Cantelot pour la revue de presse. À demain. De 9h et Wendy Bouchard au sommaire de votre émission, le tour de la question.
Bonjour chers amis, alors on va parler de l'énergie de demain, c'était le sens du discours aussi d'Emmanuel Macron mardi quand même, la sortie programmée notamment du nucléaire qui dans 20 ans devrait représenter non plus 75% de la part de notre électricité, de notre énergie, mais 50%. Mais d'ici là, et quelle énergie nous développons précisément pour que notre pouvoir d'achat ne soit pas grévé davantage? On va en parler largement. Et puis à 10h, cheval athlète, cheval loisir, cheval compagnon, c'est le salon du cheval en ce moment, les Longines Master. Nicolas Cantelot sera avec nous. Voilà. Virginie Coupry, Eiffel et Alexis Grus pour nous parler de cette passion cheval. C'est le 4e sport national d'équitation en France. Hein.
On vous retrouve avec grand plaisir à partir de 9h sur Europe 1. À suivre aussi l'essentiel de la matinale.
Et la météo avec Laurent Cabrol. Il est 8h59.
A tout de suite.
Europe 1.
Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nicolas.
Nous sommes pris en tenaille. Oui.
Pluie au nord et du soleil quand même dans le sud.
Un peu de soleil au sud, mais ce sont des pluies différentes qui nous assaillent aujourd'hui, si je puis dire. Les pluies océanes envahissent les littorales de la Manche, la vallée de la Loire, la région parisienne. Ce matin seulement pour Paris, après ce sont des éclaircies quand même timide, mais il y en aura. Les vents sont très forts dans toutes ces régions. Sur le Poitou-Charente, le Limousin, le centre, sur l'Aquitaine, ce sont des pluies dans l'après-midi. Et puis les pluies cévenoles qui se manifestent timidement, faut bien le dire pour l'instant, sur le Languedoc et le Roussillon. Entre les deux, ben, un brin de douceur et un brin de ciel voilé sur le Béarn, l'Auvergne, la Lorraine et l'Alsace. Température maximale, comme hier, entre 12 et 17.